Salut tout le monde, bienvenue au Trio économique. J'étais absent un peu dans la dernière semaine. Vincent puis Frank ont fait ça vraiment comme des grands garçons. Mais là, mon déménagement est finalement fini, fait que je peux être de retour. Comme d'habitude, sur Patreon, ça sort une à deux journées après qu'on ait tapé. Donc, c'est vraiment le moyen le plus rapide d'avoir accès à tout. Il y a toujours un 4 semaines de délai pour YouTube, mais vous avez au moins le bénéfice de voir nos grosses faces. Puis finalement, n'oubliez jamais de nous supporter justement en vous abonnant à la chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche tout simplement. Si vous nous supportez sur Patreon, merci beaucoup, ça nous aide beaucoup. C'est ce qui nous permet de mettre autant de temps là-dessus, notamment avec Frank qui maintenant travaille à temps plein sur les réseaux sociaux de votreconseiller.net. C'est en grande partie grâce à vous. Fait que merci pour votre support. Puis on va décoller justement un genre d'épisode bonus aujourd'hui, un Q&A, tout le plus standard. Vous avez quand même bien répondu sur Patreon. On a au-dessus de 15 questions à répondre aujourd'hui. Fait que probablement qu'on va faire comme d'habitude, puis on va répondre à une et demie quand Vincent va commencer à nous parler de toutes sortes d'affaires louches. Mais non, on va être discipliné. On va vraiment essayer d'en répondre le plus possible.
C'est le fun comment c'est ma faute. vous participez pas en tout, hein, c'est toute ma faute.
Il ne faut pas que ça soit de la faute de quelqu'un. Là.
Yes, fait qu'on va starter tout de suite avec la première question, hein, Frank.
Yes, ben justement, juste pour rajouter à ce que tu disais, Yann, pour le vidéo, ben l'avantage aussi des gens, s'ils veulent l'écouter sur YouTube, c'est pour voir qu'à chaque fois que Vincent ou Yann ou moi, on parle de quelque chose, j'essaie de mettre le lien en image au montage, comme ça permet d'aller voir les références, là, surtout des livres qu'on parle, des études qu'on parle, ça peut être intéressant pour vous autres d'aller fouiller, parce qu'il ne faut pas toujours prendre ce qu'on dit pour acquis, il faut quand même vérifier par soi-même.
Oui, puis n'oubliez pas une chose aussi, ça a l'air de rien, mais ça pogne de plus en plus notre podcast, on est rendu à peu près à 800 auditeurs réguliers, fait que c'est quand même assez valorisant de voir que même si ça a l'air lourd comme sujet, les gens s'abonnent de plus en plus, fait que c'est vraiment cool, sérieusement, continuez à vous abonner.
Ah, parce que c'est clairement pas parce qu'on est beau, hein?
Non.
Ouais, on peut dire ça de même, ouais. Mais en plus, c'est
il y a personne qui est venu pour nos looks, là.
Mais juste, dernière parenthèse, avant qu'on rentre dans le vif du sujet des questions des gens, la majorité des podcasts, j'avais lu ça à un moment donné dans un petit rapport d'un hoster de podcasts, la majorité des podcasts arrêtent après 5 ou 6 épisodes. Donc, en fait, le truc, c'est pas nécessairement d'être vraiment bon, c'est de persévérer dans le temps. Donc, tous les podcasts qui persévèrent dans le temps et qui ont du contenu régulier comme ce qu'on essaie de faire, là, tu sais, un podcast par semaine avec une journée CTD pour le sortir habituellement, ben, tu fais grossir ton auditoire. Puis ce que les gens n'aiment pas, c'est bon, là, il y a un épisode qui sort là, puis il n'y en a pas pendant 3 mois. Après ça, il y en a un autre. Donc, tu sais, je pense qu'en gardant un bon rythme comme ça, ça permet aux gens de nous suivre puis de participer comme ils l'ont fait. Fait qu'on les remercie de le faire. Dans quoi est-ce que je commence que je pourrais sauter comme question? Là, j'ai pas demandé aux gens s'ils voulaient que je révèle leur identité. Fait que j'ai comme mélangé les questions puis on sait pas nécessairement de qui ça vient parce que je voulais pas mettre personne dans le trouble, notamment un dont justement ça fait bien de préserver son identité. Il dit il y a eu beaucoup d'aide qui a été donnée dans les dernières années à des grosses entreprises comme Bombardier. Il dit est-ce qu'on les aide ou pas? Il dit soyez indulgents, par pitié, c'est mon gang-pain. Donc, on parle de quelqu'un qui travaille chez Bombardier, fait qu'on va taire son identité. Vincent, comment tu vois ça, toi? Je vais commencer avec toi avec les nombreuses subventions qui ont été données là, à coups de milliards à des entreprises comme Bombardier. Ça, c'est. On se doutait de la réponse. Je te vois hocher de la tête pour les gens qui sont juste en audio.
La réponse, c'est un non catégorique. Mais c'est aussi parce que je pense qu'il faut que les gens s'enlèvent. Là. Je vais le faire vraiment vite. Là. La réponse, c'est qu'il faut que les gens s'enlèvent le scénario catastrophe ou s'il n'y a pas d'aide de l'État, Bombardier doit complètement fermer porte. C'est pas vrai. En fait, souvent, quand tu regardes les données, quand il y a des compagnies qui font faillite, premièrement, il faut vendre les actifs de la compagnie. Mais c'est des actifs, c'est pas juste c'est vendre des machines, vendre des bureaux, c'est... Tu peux vendre une division, tu peux céder du human capital, tu peux céder une partie de ta main-d'œuvre à un autre employeur qui continue. Ça arrive fréquemment après, pas tout le temps, mais ça arrive en fait parfois fréquemment qu'après une reconsolidation, il y a même une expansion de la main-d'œuvre parce que le nouvel acquérant est tellement meilleur qu'il est capable d'augmenter en fait la productivité de la firme parce que pour chaque travailleur, il est plus productif. Donc, c'est tout à fait possible que la personne qui nous envoie ça pourrait garder son emploi après la fin de telles aides gouvernementales, c'est pas garanti qu'il la perdrait. Donc, il faudrait enlever un peu le scénario catastrophe de tout ça. Ça veut pas dire, tu sais, que...
Je vais vous donner un exemple avec Carnival, par exemple, aux États-Unis. Ça a sorti à peu près au mois d'avril l'année passée. C'est une histoire que j'aime raconter parce que ça vous montre comment, des fois, une entreprise qui s'écroule, une zombie company, comme Carnival ou maintenant Bombardier, qui en est une quasiment elle aussi, on devrait apprendre à les laisser aller, ces compagnies-là, parce que justement, ils monopolisent certaines choses. Dans le cas de Carnival, c'est des gros bateaux, on s'entend. Dans le cas de Bombardier, c'est une main-d'œuvre, dans le fond, hyper qualifiée. C'est ça qui est retenu à l'intérieur de l'entreprise. Mais prenez l'exemple de Carnival. C'est une compagnie qui n'était plus capable de se financer au début de la COVID. Ils faisaient des demandes de prêts quand même assez louches avec des hedge funds, puis ils se faisaient même refuser. Donc, ça s'en allait complètement dans le mur comme entreprise. Sauf que si on les avait laissés faire faillite, il n'y a personne qui aurait fait des trous dans le coq des bateaux. Les bateaux auraient continué à flotter pareil. C'est juste que l'entreprise aurait fait faillite complètement. Une autre entreprise, flambant neuve probablement, aurait racheté les actifs à un méga rabais. Tout le monde comprend ça. Et cette entreprise-là, probablement qu'elle aurait été avec des dettes relativement faibles. Fait qu'elle aurait décollé une nouvelle entreprise de croisière avec des prix qui auraient été beaucoup plus abordables que les compétiteurs parce qu'elle aurait acheté des bateaux à rabais carrément. C'est qui aurait mangé ses bas dans cette histoire-là? C'est évidemment les banques. Les banques qui avaient fait des prêts à Carnival auraient dû digérer des pertes financières. Mais les banques sont là pour ça. Ils prennent des risques à un moment donné. Il faut arrêter de les sauver les fesses tout le temps. Ce qui est arrivé, évidemment, la Fed s'est mis à imprimer beaucoup d'argent, s'est mis à imprimer des facilités de crédit pour obtenir des obligations de junk bonds, carrément. Puis, ça l'a permis aux banques d'aller faire des prêts plus louches encore à Carnival parce qu'ils se disaient, de toute façon, la Fed va ramasser les cochonneries que je vais émettre éventuellement. Mmh. Fait que tu t'es ramassé avec une entreprise qui a augmenté sa dette énormément, qui s'est ramassée avec des paiements d'intérêt de 11,5 à 12% sur la dette qui était fraîchement émise. C'est une entreprise qui va être réellement un zombie dans le sens que ça va être extrêmement difficile d'être profitable avec de la dette financée à du 12%. Tu sais, c'est ça que les gens ont de la misère à comprendre, mais les bateaux flottent encore, les gens ont gardé leur job, puis tout le monde a l'air heureux. La réalité, c'est que les banques se sont fait sauver les fesses encore une fois. Mais tout cet argent-là qui a été gaspillé, on l'a pris où? On l'a pris sur la dette, on l'a pris sur les générations futures d'une certaine façon, ou peut-être la future inflation qui va être créée également, peu importe. Il va y avoir des conséquences économiques par rapport à ça, mais on le fait pour faire survivre une compagnie qui, si elle aurait été démantelée, on aurait pu avoir comme consommateur un encore meilleur service de croisière parce que les acheteurs de cette compagnie-là l'auraient eu vraiment à rabais. Mais dans le cas de Bombardier, c'est un peu la même affaire. Si Bombardier fait faillite, l'expertise ne disparaît pas. L'expertise est toujours là. On aurait probablement plusieurs startups en aéronautique qui auraient pu faire de quoi de quand même assez génial. C'est juste que, comme politicien, on le file pas, on le sent pas, on sait pas qu'est-ce qui arrive réellement après l'éclatement d'une compagnie parce qu'on suit pas à la trace tout le personnel qui a été, toutes les ressources qui ont été réallouées ailleurs.
Mais est-ce qu'il y a pas un peu, on a parlé de ça pendant quelques podcasts, là, les incitations que les politiciens ont à faire avec, à jouer avec l'argent de la collectivité, mais dans un cas comme Bombardier, j'ai de la misère à voir où est la plus-value d'un politicien parce que quand ils agissent comme ça, généralement, la réaction dans l'opinion publique est quand même assez négative. De mémoire, la dernière fois qu'ils ont donné de l'argent à Bombardier, on a eu tout un scandale par la suite avec les bonus que les dirigeants s'étaient supposément donnés. Il y avait des articles très négatifs à l'égard de la subvention qui avait été... Je ne me souviens plus si c'est par Couillard ou par Legault à ce moment-là. Je pense que c'était par Couillard. Puis il y avait une couverture extrêmement négative de cette action-là. Donc, j'ai de la misère à comprendre quelle est la plus-value pour un politicos d'aller donner de l'argent, surtout des grosses compagnies, des petites compagnies, tu as toujours un peu le côté « ah, on aide », puis là, tu viens flatter un peu le côté achat local puis protectionniste des Québécois. Mais pour ce genre de grosses compagnies-là, à chaque fois qu'il y a déjà des exemples comme ça dans l'actualité, je ne sais pas si Vincent ou Yann, vous avez une idée là-dessus, mais moi, je ne comprends pas quel est l'intérêt du politicien d'aller de ce côté-là. C'est toujours très mal reçu.
Ben, je me suis toujours posé la question à cet égard-là. Premièrement, c'est peut-être parce qu'il y a une partie des votes qui sont concentrés, des travailleurs qui sont concentrés dans quelques comtés qui sont plus importants. Donc, tu sais, je me souviens comme quand Raymond Bachand avait donné le contrat sans appel d'offres pour les rails de métro, puis c'était l'usine à la Pocatière. Kamouraska, ben, en plus, Yann peut en parler, c'était pas, c'est pas un comté qui donnait des majorités écrasantes au parti, peu importe qui gagnait, j'ai jamais vu des majorités de 70-80%. C'était le comté change d'élection en élection. Si c'est pas exactement ça, c'est quelque chose de même. Donc, la Pocatière, je présume que c'est soit dans le comté de Rivière-du-Loup ou Kamouraska-Témiscouata. Juste ça, ça doit être suffisant pour avoir un effet à la marge, au même titre que la Gaspésia ou la cimenterie McInnes, c'était suffisant aussi parce que c'est des comtés qui sont marginaux. Donc, il y a cette espèce d'élément-là qu'il faut considérer. Je dirais que le deuxième, c'est peut-être aussi la question de tout le monde le fait internationalement. Donc, il y a un peu l'espèce de catch 22 que si on ne le fait pas, ben eux vont le faire aussi. Puis qu'il y a d'autres dimensions dans lesquelles il y a un peu de la concurrence avec d'autres politiciens de d'autres États. Je ne suis pas capable de savoir exactement c'est quoi la pondération de ça, mais j'aimerais ça. Ça serait le fun d'avoir une sorte de verbatim de conseil des ministres là-dessus. Puis je suis prêt à te parier une fortune que les considérations politiques sont là. Puis c'est possible aussi que des fois, tu sais, tu essaies de t'expliquer la dernière shot. Une autre explication qui peut être bien simple, c'est que ben des fois, ça a marché, puis des fois, ça n'a pas marché. Ça a marché avec le cas de la Pocatière pour les trains de métro. Ça pourrait être que la fois qu'ils ont fait le truc extrême, comme passer une loi spéciale, pas la loi spéciale, mais mettons, avec SNC-Lavalin, parce que SNC-Lavalin reçoit un peu le même traitement parfois des gouvernements avec beaucoup d'aide financière. Quand ils ont passé l'espèce de petite cachette avec l'exemption pour les poursuites pénales, ce qui a causé la démission de la ministre de... C'était pas ministre de la Justice à cette époque-là, mais peu importe. Celle qui a démissionné, là, Catherine Wilson-Raybould, quand elle a démissionné, c'est possible qu'ils se sont fait le même calcul, puis ils se sont dit ça va marcher. Puis finalement, ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire qu'en moyenne, ça ne marche pas. C'est peut-être juste que c'est 80% de chances que ça marche, mais il y a 20% du temps que ça ne marchera pas.
Mais il n'y a pas un côté absurde à... T'sais, j'ai encore vu Legault récemment là, qui faisait une conférence de presse là, avec Justin Trudeau, puis ils ont annoncé que, grosso modo, là, je ne sais pas trop combien d'emplois il allait créer, puis ça allait coûter comme quasiment 800 000 $ par job, là, finalement, là, au regard du montant total qui était donné.
Oui, mais tu as fait l'exercice que personne ne fait, d'aller diviser la subvention par le nombre de jobs créés ou maintenus.
Mais même en dehors de ça, même si on ne fait pas le calcul, moi, je ne comprends pas pourquoi, quand tu es dans un contexte où tu vois partout où tu passes, là, tu marches dans la rue, là, partout où tu passes, il y a des trucs dans les vitrines, là, recherche employé, nous embauchons, recherche employé, nous embauchons, besoin urgent. Mais quelle est la plus-value d'aller faire des annonces? Puis je ne dis pas qu'en contexte de taux de chômage élevé, il faut le faire, là, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de payant politiquement à aller annoncer des créations d'emplois alors qu'il n'y a pas de manque d'emplois.
Ce qui arrive, c'est que tu cherches la plus-value à l'action, alors qu'en réalité, la game, c'est la suivante. Il n'y a pas vraiment d'externalité négative pour eux parce que ces montants d'argent-là s'en vont directement sur une dette ou sont pris à même un fonds d'investissement quelconque, ce qui fait que c'est hors budget. Tout ce qui est hors budget, les politiciens ont vraiment beaucoup de facilité à utiliser ça. Moi, c'est pour ça qu'une des choses...
La comptabilité gouvernementale, c'est vraiment difficile. C'est difficile à naviguer. Il faut vraiment que tu aies une expertise dans le domaine, puis je fais des comptes nationaux là, pour recréer le PIB dans le passé. Essayer de comprendre qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est dans tel périmètre comptable, qu'est-ce qui est dans l'autre. Est-ce que vraiment, tu sais, ça, c'est un actif ou est-ce que c'est un actif avec de l'équité? Est-ce que c'est un actif que... Parce que là, après ça, tu sais, aussi, c'est comment tu... C'est vraiment l'enfer de croire n'importe comment ce que les gouvernements financent leurs affaires parce qu'il y a énormément d'arbitraire, contrairement pour une firme privée. Parce que quand tu dis, ben mon actif vaut ça pour une firme privée, c'est le prix du marché pour un actif qui est fréquemment échangé sur le marché. Mm-hmm. La plupart des actifs que le gouvernement tient, ce n'est pas des actifs fréquemment échangés. Donc, le prix qui est fait, c'est généralement ben, quelque chose. Mais c'est quoi la valeur d'un, mettons pour les Américains, là, parce qu'on n'en a pas au Canada, mais c'est quoi la valeur d'un porte-avions? Comment tu évalues ça dans ta dette nette, donc ton actif que tu essaies de contre-évaluer? Peux-tu vraiment vendre un porte-avions comme ça? Les prix qui sont mis généralement, il y a très peu de signification ben oui. à ça.
C'est comme les histoires de péquistes. Ah oh, ouais, mais là, c'est pas grave, là, le déficit. Si jamais on a Hydro-Québec, ça va au full de ben oui, mais ça en vente Hydro-Québec, voir ce qui va se passer.
Ben, il y a plein d'affaires comme ça, mais après, vraiment, la valeur d'Hydro-Québec dépendrait largement de si tu vends avec le monopole ou non.
Ouais,
si tu vends avec libéralisation, le prix du monopole va baisser. Massivement, je veux juste ça de même.
Ouais, même Parizeau avait eu cette idée-là à un moment donné. Hein. Ils voulaient vendre des actions d'Hydro-Québec, puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas nécessairement la meilleure idée du monde.
La DQ en 2008, je me suis ramassé une des premières entrevues radio que j'ai fait dans ma carrière. Écoute, je n'étais pas conseiller financier, je n'étais pas chroniqueur politique, j'étais juste candidat pour la DQ dans Kamouraska-Témiscouata. On arrive le matin, Mario Dumont sort comme proposition de vendre 10 % des actions d'Hydro-Québec sur les marchés, mais à la sauce, à des kisses / nationalistes, seulement des Québécois sur la bourse pourraient les détenir. T'sais. Comme si c'était vraiment facile à faire. Là. Mais ça, c'était l'époque. Puis l'affaire, c'est que j'arrive en onde avec un animateur de radio à Rivière-du-Loup, puis là, il m'attendait avec une brique puis un fanal avec cette proposition-là parce qu'il était totalement en contre. Je n'étais pas conseiller financier encore à l'époque, mais à la fin de l'entrevue, je l'avais convaincu qu'il en voudrait peut-être dans son portefeuille. Parce que justement, tu dis une entreprise monopolistique et tout ça, les Warren Buffett de ce monde, c'est ça qu'ils recherchent souvent, d'aller chercher ça, ces marges de profit-là qui sont un peu exagérées dans des entreprises quasi monopolistiques. C'est le wet dream d'un actionnaire souvent de trouver des compagnies comme ça. Fait que c'est sûr que s'il y a des actions d'Hydro-Québec à un moment donné qui est disponible, il va y avoir un marché d'actionnaires pour ça, c'est évident. Puis peut-être que ça l'amènerait un côté... intéressant à court terme pour révolutionner un peu la compagnie à l'intérieur, mais la vraie révolution qui arriverait avec Hydro-Québec, ce serait d'avoir des compétiteurs. Là, tout le monde comprend ça.
Ouais.
Ben oui, c'est clair. On a effleuré un peu le sujet de la dette, puis il y a quelques questions là-dessus. J'y vais avec une première. Quelqu'un qui dit la dette canadienne et québécoise augmente quand même assez rapidement. Selon vous, quels moyens vont être pris pour rembourser et quand faudra-t-il le faire? Pensez-vous qu'on peut arriver à une solution qui ressemble à celle de la Grèce?
Ce ne sera jamais remboursé. Là. Ce ne sera jamais, 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 jamais remboursé. Ce qui intéresse les politiciens, ce n'est pas la dette. C'est la dette par rapport au PIB.
Yep.
Donc, les politiciens, quand ce ratio-là devient trop élevé, historiquement, puis pas juste au Québec, partout dans le monde, ce qui arrive... c'est que tu vas vivre une augmentation du PIB. Ça peut arriver de 2, 3, 4 façons, là, puis Vincent va probablement me corriger, là, mais une augmentation de population, c'est bon. Une augmentation d'inflation, ça augmente le PIB également. Augmentation de productivité, généralement, c'est probablement l'aspect le plus bénéfique qu'une économie peut avoir, des trois. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qui risque d'arriver dans le futur? C'est s'il y a une pression vraiment sur la dette par rapport à notre PIB, ben, il faut qu'un de ces trois critères-là, ou les trois critères carrément, augmente. Tu sens que Trudeau veut facilement aller plus vers l'immigration que le Québec, évidemment.
Ouais.
Mais je pense que c'est très dur de discarter l'inflation comme étant un facteur qui va être utilisé par les politiciens dans le futur.
Oui, bien, je vais ajouter quelque chose à ce que Yann dit. La raison que l'inflation peut compter pour la dette, c'est que quand tu as émis la dette, tu l'as émis avec les attentes d'inflation que les gens avaient à ce moment-là. Oui. Donc, dans le prix, en période genre précédente, tu as dit, ben, je m'attends à 2 % d'inflation, ben, tu as mis le prix de ton actif, donc l'obligation que tu as, en fonction de cette attente-là.
Oui.
Mais le résultat, c'est que si le gouvernement décide de nier sa promesse, de faire de l'inflation,
de laisser aller l'inflation.
À 2 % qui laisse aller, disons, 3, 4, 5, 6, 7, puis qu'il le fait de manière persistante. Là, dans ce cas-là, effectivement, c'est comme ça qu'il réduit sa dette parce qu'il va repayer avec des dollars qui valent moins, mais le terme du contrat qu'il doit repayer est en les dollars anciennement. Le problème, quand il fait ça, puis ça vient avec une question des gens qui disent, est-ce qu'il y a une autre question qu'on a plus bas, là, qui demande comment est-ce que les États vont annuler leur dette à cause de la pandémie?
Mais c'est quelque chose qu'on voit circuler beaucoup, ça.
C'est rare, les États qui, pour des pays qui sont, genre, comme le Canada, c'est rare des défauts sur la dette. Je ne sais pas comment dire ça en français. Là. C'est,
c'était correct, c'est le même. C'est default c'est en anglais.
Default.
Je veux dire comme l'Argentine, mettons. Là.
Exactement. C'est rare pour des pays occidentaux ou des pays qui sont très, très riches de faire ça. C'est généralement des trucs comme l'Argentine, le Brésil, qui font ces défauts-là. Par contre, ça ne veut pas dire que les gouvernements des pays occidentaux ne font pas défaut d'une manière un peu étrange. Donc, ils font des sortes de semi-défauts. Il y a trois manières de faire des semi-défauts. La première, c'est que tu fais juste un peu d'inflation. Juste un petit peu pour éroder la valeur de ta dette. La deuxième que tu peux faire pour ça, c'est ce qu'on appelle de la répression financière. La répression financière, c'est que tu combines l'inflation avec des contrôles sur la mobilité des capitaux. Donc, tu empêches les capitaux de quitter vers des endroits qui ont des politiques monétaires plus stables.
On a vu ça à Cyprus récemment, hein? Quelque chose comme ça. Hein?
Oui, exactement. Tu essaies d'empêcher les capitaux de s'enfuir parce que la vertu des capitaux, c'est qu'ils sont absolument mobiles. Un dollar, c'est un dollar, c'est un dollar. Peu importe où est-ce qu'il va dans le monde, s'il réussit ils s'en foutent des frontières. Ouais. Si tu réussis à faire de la répression financière, donc tu empêches les capitaux de quitter, tu peux justement les taxer de cette manière indirecte-là. Et en faisant de la répression financière, ce que tu es en train de faire fondamentalement, c'est de faire défaut sur ta dette par un mécanisme caché. Donc, tu passes un peu par des moyens détournés de réduire la valeur réelle de ta dette. Le problème de ce mécanisme-là, c'est que tu en viens à réduire la croissance économique de manière très claire.
Perte de confiance.
Ouais, c'est ça, c'est les gens vont perdre la confiance. Si, mettons, par exemple, tu...
Mais comment tu fais concrètement, mettons, Vincent, pour empêcher que les capitaux sortent d'un endroit?
Ben écoute, la Grande-Bretagne, c'est plus difficile aujourd'hui, OK, soyons très clairs. Mm-hmm. Mais dans les années 50, 60, 70, ça se faisait fréquemment. Par exemple, la Grande-Bretagne, tu n'avais pas le droit de quitter l'Angleterre avec plus de 50 pounds sur toi, même si tu allais en vacances. Donc, tu as des histoires... par exemple, un gars que je connais de Institute for Economic Affairs, qui était Lord Ralph Harris, qui était un incroyable économiste libéral. Et lui, il contait l'histoire de comment il a fait la croisade pour l'élimination de ses restrictions sur les capitaux. Puis c'est parce qu'il contait l'histoire de comment il voulait aller en France pour voir son garçon graduait de l'université. Il était allé en France et qu'il a fallu qu'il retire un certain montant de la banque. Il fallait qu'il y ait un certificat disant qu'il avait, il avait retiré ça et qu'il allait uniquement dépenser le 50 pounds pour sortir à l'étranger, donc pour l'échanger dans des bureaux de change en Paris ou peu importe c'est où. C'était ça, des contrôles de capitaux.
Donc, on a encore un peu faire, ici présentement au Canada, c'est 10 000 piastres, hein? Si tu sors avec 10 000 d'argent liquide, plus de 10 000 d'argent liquide, tu ne peux pas. C'est vraiment le maximum que tu peux avoir sur toi quand tu sors, c'est 10 000 $ d'argent liquide.
Yep. Puis tu peux faire aussi des choses comme des taxes sur les transactions financières. Donc, si par exemple, garde juste un exemple. Puis ça, c'est un peu petit là, présentement, mais tu pourrais facilement l'augmenter. Pour moi, quand j'ai un chèque que je reçois des paiements d'Américains, j'ai un paiement de 2,50 à faire pour un chèque, donc c'est par unité. Mais ce que tu pourrais faire facilement, c'est dire, ben, on met une taxe de 100 $ par chèque. La banque peut charger les frais normaux qu'elle veut, mais c'est tout à fait possible de dire, ben, on va te charger pour faire un chèque vers des Américains, donc pour qu'un Américain tire de ton compte, au même titre que tu pourrais tirer d'un Américain vers toi. Dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu contrôles l'offre ou la demande de devises étrangères, donc de capitaux étrangers à toute fin pratique. Et là, ce que tu es capable de faire, c'est faire de la répression financière. C'est comme ça que la plupart des gouvernements font défaut, même quand c'est des pays riches, sur leurs dettes. Ce n'est pas un défaut dans le sens qu'ils renoncent, mais la manière dont le fardeau se porte, c'est que moins de croissance économique, un service de la dette plus élevé, parce que les gens sont tout à fait conscients que c'est ça qui se passe. Ils ne sont pas niaiseux, là. Les gens ne sont pas stupides. Ce qu'ils vont demander, c'est un prix plus élevé pour des dettes futures. Donc, le coût de se financer pour le gouvernement est beaucoup plus élevé. Donc, il y a une vulnérabilité financière dans l'avenir. Et tu as aussi le problème que les gens n'ont plus des attentes fixées quant à l'inflation, ce qu'on appelle du anchoring. Dès que les gens n'ont plus des attentes ne sont plus fixes pour l'inflation. Parce qu'il y a un modèle en économie, c'est ça travaille d'un débat qui s'appelle Rules versus Discretion. Et il y a deux gars, Finn Kidlin puis Edward Prescott, qui avaient fait l'argument que ce qui était optimal, c'était de se commettre à une règle, même si la règle est techniquement pas bonne.
Le fameux 1 à 3 % d'inflation avec une cible de 2 % au Canada.
C'est mieux une règle qui n'est pas parfaite à la possibilité de discrétion, parce qu'au moins les gens après ça peuvent fixer leurs attentes et donc ajuster leur comportement présent en fonction des attentes du futur, parce qu'ils savent qu'est-ce qui est le bon comportement dans le futur. Quand tu donnes trop de discrétion au gouvernement, les gens n'ont aucune attente qui est stable et en conséquent, à cause que les attentes ne sont pas stables, ils font des décisions qui sont beaucoup plus difficiles à coordonner. Mais si moi et Yann, on est tout à fait d'accord, par exemple, que les chances que l'inflation soit entre 1 et 3 %, on va faire des contrats qui reflètent ça. Mais si dans notre tête, ça peut être nulle part entre moins 5 et plus 20, ça va être vraiment plus difficile pour Yann et moi de négocier un contrat qui implique des valeurs futures. Donc, le anchoring, l'espèce d'idée que la politique monétaire doit être stable à un certain niveau, là, c'est vraiment important. Mais si tu ne fais pas ça, tu peux effectivement réduire le fardeau de ta dette.
Ce que les gens n'ont pas réalisé, c'est que dans la dernière crise, les attentes en fait envers l'inflation ont changé au point de vue des banques centrales. Si vous regardez vraiment qu'est-ce que c'était, ça a toujours été, par exemple au Canada, on vise une inflation de 1 et 3 % cible de 2, très clair, avec rien d'autre. Aux États-Unis, il y a quelques années, on a rajouté le volet plein emploi à cette règle-là. Fait que déjà là,
ça existe depuis toujours, ça. Hein?
Exact. Mais là, ce qu'on a fait, il y a un wording qui a changé dans la philosophie des banques centrales, c'est de dire, c'est non pas l'inflation qu'on veut entre 1 et 3 %, mais l'inflation de long terme. Fait que ça, c'est une nuance qui a l'air juste dans une syntaxe, mais ce que ça veut réellement dire, c'est que comme on a accumulé une dizaine d'années où est-ce que l'IPC au Canada était souvent en dessous de la cible de 1 à 3 %, si tu fais une moyenne mobile de l'inflation sur les 10 dernières années, ce que ça dit, sans le dire réellement, c'est que tu es prêt à tolérer de l'inflation de 3, 4, 5 % pendant quelques années pour compenser les années à 1 % que tu as vécu avant. Ouais,
ou là, même tu restes quand même dans ta cible, c'est ça.
Tu restes dans ta cible parce que la cible n'est plus une inflation de 1 à 3 % right now, mais de 1 à 3 % sur le long terme. Ça l'a amené chez plusieurs institutions financières un changement de thinking tranquillement qui se fait au niveau de l'inflation. Puis c'est une des raisons pourquoi on a vu en partie les hausses de taux d'intérêt des derniers temps, parce qu'on commence à en anticiper un peu. Mais on est au début de la phase. Ça va se concrétiser? Est-ce qu'on va vivre une déflation comme ce qui s'est passé quand même en Europe? Parce qu'en Europe, ils en ont imprimé de l'argent, puis il y a eu de la déflation pareil.
Attends, il y a tellement de choses. Là, quand on rentre dans la politique monétaire, c'est vraiment l'enfer. Parce que ça, c'est une critique que je fais beaucoup des économistes. Puis ça va peut-être répondre aux questions. Il y a une question
des questions là-dessus.
On avait des questions sur l'impression d'argent puis le Bitcoin. Puis je pense qu'on va répondre. Je peux répondre à ces deux-là, comme moi, dans ce que je t'avais de dire. Les économistes, on est vraiment de la merde quand c'est le temps de parler de politique monétaire. Parce qu'il y a cette espèce de fait qu'on s'est laissé guider. Je suis très critique de ma profession là-dessus. Parce que quand on parle de libre-échange, par exemple, on a un cadre théorique de libre-échange parfait qui est comme une sorte de manière d'analyser. On sait que ce n'est pas parfait dans le vrai monde, mais c'est un cadre d'interprétation dans lequel, après ça, on peut juste jouer avec des paramètres et arriver à qu'est-ce qui se serait passé si tu avais laissé les gens complètement libres d'échanger. Ouais, ouais. Puis là, on fait le modèle avec des petites économies ouvertes. Là, qu'est-ce qui arrive si tu as une grosse économie? Qu'est-ce que ça change? Mais on part toujours de cette espèce de point de départ-là, puis après ça, on peut facilement évaluer tout ce qui se produit. Mais pour la monnaie, étrangement, on a décidé qu'on ne faisait pas ça. On va commencer de la prémisse qu'il y a un État qui fait de l'argent. Mais historiquement, c'est vraiment pas vrai, ça. Historiquement, l'argent est émergé de manière privée, de un. De deux, quand tu regardes historiquement les monnaies qui sont privées, on oublie par exemple qu'au Canada, tu avais une époque qui s'appelait, par exemple, ou en Écosse ou en Suède, ça s'appelait le « free banking ». C'était que les banques émettaient elles-mêmes. Parce que c'est quoi une pièce d'argent? C'est quoi un dollar que tu as dans les mains? C'est un claim contre des biens égal à la valeur qui est écrite sur le papier. Quand tu dis que tu as 100 $, c'est pas le 100 $ qui t'intéresse. C'est les biens que tu achètes pour 100 $. Mais les banques, avant, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles disaient, je vais émettre une note. Donc, j'ai la note j'ai dans mon bureau, par exemple, là, c'est dans des boîtes, mais j'ai un billet de la Banque de Montréal de 1858. Et ce billet de la Banque de Montréal, ce qui se passait, c'est que la Banque de Montréal émettait cette note-là. Et moi, quand j'allais à la Banque de Montréal, je pouvais avoir 100 pounds en retour en valeur
Ça a déjà été de l'or aussi.
C'était de l'or, peu importe c'est quoi. Ouais. Mais la banque, elle, elle avait un intérêt à faire ça parce que ben, ça réduisait ses réserves, ça faisait en sorte que c'était un outil de monétisation. C'était super efficace. Mais aussi, ce qui se passait, c'était que la banque allait diminuer ou augmenter les notes en fonction du désir du public de détenir l'asset fondamental qui était l'or ou l'argent, ouais, ou peu importe c'est quoi.
D'où c'est la raison fameuse pour... histoire des gens qui vont retirer leur cash à la banque, puis là, ça fait cracher.
Ah, ça, c'est un petit peu plus complexe.
Oui, c'est ça. Là, c'est là qu'il faut que tu ajoutes. Mais on a une période dans laquelle tu as une sorte de proche l'équivalent du libre-échange, mais pour la monnaie, ouais, où c'est les banques qui émettent leur argent elles-mêmes. Puis ce que tu vois, c'était que quand ils voient que la demande diminue, bien, ils mettent. Donc, les gens en veulent moins, ben, ils sont prêts à, dans ce cas-ci, à tenir plus d'argent, à émettre plus de notes parce que tu as moins de chances que les gens viennent faire de la rédemption. Puis si les gens veulent détenir plus d'or, ben là, tu réduis tes notes en circulation justement parce que tu veux pas un run sur ta banque, donc que tu dois nier sur tes promesses. Mais historiquement, les banques s'arrangeaient de manière privée. Puis non seulement ça, mais tu sais, tu pouvais amener ta note, la Banque de Montréal, à la Banque de Québec.
Ouais.
Ça a déjà existé.
Le bout de papier vaut rien. Là. C'est une des raisons pourquoi le penny, là, le sous noir, est disparu au Canada. Je veux dire, on était rendu au point où est-ce que le faire fondre t'aurais donné beaucoup plus d'argent que le sous-noir comme tel. Je pense que produire un sous-noir, on t'a rendu à 6 ou 7 cents de revient.
Mais pour les banques, ce qui était important, c'était que pour eux, c'était leur profit. Là. Ouais. Les notes en circulation, c'était leur manière, de toute fin pratique, de faire des prêts. Mmh. Puis c'était vraiment très profitable pour eux de faire ces investissements-là. Puis comme c'est des claims sur leurs actifs, leur réputation à eux était en jeu, leur profitabilité. Puis non seulement ça, mais quand tu avais le mécanisme qu'on appelle les clearing house, les gens ne savent pas c'est quoi que ça veut dire, mais quand tu vois, tu sais, genre TD Water, ça s'appelle clear, c'est un clearing house au début. C'est quoi un clearing house? C'est que tu avais une sorte de banque qui était la banque des banques. Et ce qui se passait, c'est qu'ils disaient, moi, je vais garder tous vos actifs d'or sur réserve chez moi pour que quand les notes de telle banque arrivent versus telle autre banque, moi, je vais faire les transferts entre vous. Puis il va avoir un ledger dans lequel ça dit, bien, telle autre banque doit tel montant. Et ce qui se passe, c'est que si une banque émet trop d'argent dans un contexte comme ça, les autres banques le réalisent. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont commencer à refuser les notes. Et donc là, c'est que là, cette banque-là va avoir perte de confiance. Et ce que tu avais, c'était que le comportement d'une banque était policé par toutes les autres banques et toutes les autres banques étaient policées par une banque. Et c'est incroyable comme mécanisme, comment ça fonctionnait de manière privée. Là, longue explication pour arriver à pourquoi est-ce que les banques centrales existent.
Peut-être juste pour le simplifier un peu, Vincent, avant. Oui. Les gens, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à un moment donné, les premières phases du banking, là, c'était les gens allaient faire leur dépôt là. Les banques regardaient qu'est-ce qu'il y avait dans le dépôt. Fait que, mettons qu'il y avait l'équivalent de 100 onces d'or. Bien, tout ce qu'ils faisaient, c'est tu viens déposer ton argent, tu la retires, tu reprends ton argent. Autrement dit, ils servaient juste de dépôt tout simplement. À un moment donné, ce qu'ils se sont réalisés, ce que les banques ont réalisé, c'est de dire tout ce qui est dans les coffres ne sert à rien. Elle est là, elle est présente, mais ce n'est pas vrai que tout le monde va venir me voir en même temps pour réclamer son or. Fait que ce que je peux faire, c'est je pourrais en prêter un petit peu plus à des gens que ce que j'ai. Fait que là, ils vont faire des ratios 2 pour 1, par exemple. Fait que si j'ai 100 onces d'or, je peux émettre des notes bancaires pour 200 onces parce que, de toute façon, c'est pas vrai que tout le monde va réclamer les 200 onces en même temps. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que la multiplication des pains, comment on fait pour imprimer de l'argent? Ben, c'est cette note bancaire-là qui a été imprimée comme telle à l'époque. Fait que c'est pour ça que l'expression est restée, d'imprimer de l'argent. Tout le monde comprend qu'aujourd'hui, c'est 100% électronique. Mais l'argent n'est pas imprimé directement par la Banque centrale ou directement par le gouvernement. C'est un assouplissement de mesures qui va faire en sorte que les banques vont augmenter ces ratios-là des capitaux qu'ils détiennent, les dépôts, versus ce qui est réellement prêté. Une banque, présentement, là, si on arrive en 2021, là, ça fait de l'argent principalement entre les dépôts, ce que vous mettez dans des comptes de placement garantis, puis les encaisses carrément. Ils vont prêter jusqu'à 50 fois ces montants-là sur les marchés financiers. À des gens qui ont des hypothèques. Fait que, si tu déposes 100 000 $ en CPG, présentement, tu vas avoir du 1,15 %. Sauf qu'ils vont faire 50 fois plus d'hypothèques avec ce 100 000 $-là, donc pour 5 millions, par exemple, d'hypothèques, qui vont faire à 1,79%. Fait que le spread entre les deux, 1,79 moins le 1,2, mettons, fait qu'il y a un 59 points de base de spread multiplié par 50. Tout le profit de la banque est là-dedans. Yeah. C'est avec ça qu'ils payent leur staff, ils payent leur taxe municipale, ils payent toute leur patente avec ça.
Oui,
mais sauf que juste pour que les gens comprennent, là, parce que moi, mettons, là, j'ai 10 000 $ dans un compte en banque, mais je n'ai pas pour 10 000 $ d'or ou de non, valeur
ça.
Physique.
C'est là que je m'en allais, parce que ce qui s'est passé, c'est que dans un système, parce que pour l'histoire des économies, là, la monnaie, c'était généralement privée. OK? La plupart des arrangements monétaires étaient privés, que ce soit du crédit de livre ou des notes bancaires ou des bills of exchange, des bills of lading, peu importe c'est quoi, c'était des mécanismes privés. Et dans ces mécanismes-là, tu avais l'espèce d'idée qu'il y avait des règles comme l'autodiscipline du marché qui fonctionnait pour la monnaie de la même manière que ça fonctionne pour des biens que tu achètes en épicerie. Mais les gouvernements se sont rentrés progressivement dans le marché de la monnaie, ont pris monopole et de manière accrue sur le issue of money. Au début, c'était avec des règles, comme par exemple l'étalon or classique, où est-ce que les gouvernements s'étaient attachés les mains en disant, ben écoute, si c'est plus les banques qui doivent émettre ou qu'on met des restrictions sur les banques, donc les banques doivent acheter des notes ou émettre des notes de cette manière-là, ben nous, au moins aussi, on va s'attacher un peu les mains. Mais au fur et à mesure du temps, ben on a enlevé ces restrictions-là que le gouvernement avait. L'étalon or a été abandonné formellement. En fait, en première batch pendant la Première Guerre mondiale, en deuxième batch pendant la Grande Dépression, et finalement, tout mécanisme avec un actif réel qui attachait les mains des banques dans les années 70, c'était la fin du gold window à toute fin pratique. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements ont une liberté d'émettre de la monnaie.
Ah, oh, il y a un monopole.
Bien, c'est ça, mais non seulement ça, mais là, tu n'as plus de contraintes sur les banques centrales. C'est là que ça devient très difficile et ça devient très, très difficile de se naviguer là-dedans.
C'est ce qu'on appelle les floating currencies, dans le fond.
Exactement, mais il faut que tu te poses la question, comment est-ce qu'on décide les contraintes? Parce que, idéalement, ce que tu veux, c'est que tu ne veux pas donner de la discrétion à une banque centrale ou encore pire, à des politiciens. Parce que dans ce cas-ci, ce que tu fais, c'est que là, ils ont un intérêt à utiliser le issue of money pour des fins politiques. Bien là, si on ne peut pas retourner à l'idéal d'un sorte de free banking ou un marché compétitif de la monnaie, le next best sur un sorte de spectre, c'est des règles claires. Mais présentement, c'est vraiment la marge de débat qu'il y a entre économistes maintenant, c'est que tu prends tout ce spectre-là là, qui est de free banking, free market for money, puis pure central banks. Bien, pure central banks and discretion, tu es comme dans la petite zone entre discrétion et règles. Puis moi, je suis du bord des règles, définitivement, des règles très claires et très strictes sur ce que les banques centrales doivent faire. Mais tu as des gens qui sont... Mais ça, c'est la position minoritaire présentement en macro. La position majoritaire, c'est que les banques centrales doivent avoir de la discrétion. Et jusqu'à maintenant, là, depuis les dernières 10 années, c'est pas clair si ça a amené à énormément de bénéfices. Si moi, j'ai raison ou si j'ai tort, je suis encore pas mal convaincu qu'eux ont tort.
Parce que les cycles sont très longs. Les cycles, parce que, tu sais, c'est quoi? Mettons, tu arrives demain matin. Okay, ils ont imprimé beaucoup d'argent, tout le monde comprend ce que ça s'est fait dans les derniers temps. Mais tu tapes 12% d'inflation, puis tu as l'impression que ça va durer au moins 3 ans. Déjà là, la restriction va arriver vite. Tu sais, les banques centrales vont vouloir agir pour dire, OK, là, on a exagéré, ils vont réajuster le tir. L'affaire, c'est pas ça qui se passe.
C'est pas garanti qu'ils vont réajuster le tir. Hein?
Ah c'est, non, c'est. Ben, c'est Zimbabwe, ils l'ont pas réajusté.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est dans l'extrême, là. Mais il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie qu'ils vont réajuster le tir parce qu'il y a tellement de choses qu'eux ne savent pas. Et quand tu es dans un monde avec. Surtout quand tu as enlevé les règles, ça dépend très, 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 très largement des attentes que les gens ont sur les marchés.
Oui.
Et c'est pas que les athlètes, il y a toujours du monde qui vont dire, là, je sais qu'Yann, tout le monde n'est pas d'accord, là, mais que les attentes, il y a des attentes irrationnelles. Moi, je pense que toutes les attentes sont rationnelles. Ils peuvent être rationnels, mais complètement très coûteuses à coordonner parce qu'il y a justement une intervention qui crée du bruit dans la coordination entre les individus. Mmh. Parce que là, Ben moi, je ne sais pas si c'est 3 ou si c'est 4 ou si c'est 6, puis l'autre, il pense que ça va être moins 1. Ça devient très difficile de coordonner. Puis plus tu as d'attentes qui sont moins ajustées entre les gens qui sont des attentes hétérogènes, là, toute fin pratique, plus ça devient difficile pour les banques centrales de faire leur job qu'on met sur papier comme l'idéal de ce qu'elles devraient faire.
Ça amène un certain ralentissement parce que quand tu redescends sur le plancher des vaches comme business, la journée que tu arrives puis tes attentes, c'est que l'inflation, c'est 1 à 3 %. Quand tu parles à un retraité puis que ses attentes, l'inflation, c'est 1 à 3 %, tout devient pas planifié, mais presque. Là, tu sais, tu prends des décisions en fonction des paramètres que tu as, puis tu es capable de te projeter dans le temps. Donc, tu es capable de dire d'être confortable à faire un investissement. Parce qu'à un moment donné, si tu te dis, si mon argent, dans 10 ans, j'ai l'impression que ça ne vaudra plus rien, je veux dire, c'est mieux ça. De l'utiliser comme papier de toilette que de...
Tu as un incitatif à le dépenser maintenant. Là.
Exactement. Fait que là, frein à l'investissement immédiat. Je veux dire, moi, je sors l'argent de mes... Tu sais, si
l'inflation, c'est une taxe. C'est ça qu'il faut dire. C'est que c'est une taxe parce que tu redistribues des gens qui ont des revenus fixes vers les gouvernements. C'est ça que c'est l'inflation. Il faut arrêter de se mentir. L'inflation, c'est fondamentalement une taxe qui taxe les gens à travers le temps. Donc, tu ne te sers pas. C'est pas comme si tu taxais maintenant la production.
Et très répressif comme revenu. Taxe.
Ouais, c'est ça, c'est très répressif et c'est super régressif en plus.
Exactement, exactement.
Parce que là, ce que tu affectes, c'est généralement des gens qui ont des revenus fixes. Puis quand tu regardes, puis là, ce n'est pas une loi économique en soi, c'est plus une régularité empirique qu'autre chose. Uh-huh. Qui a des revenus fixes? Généralement, des salariés qui ont des contrats qui sont fixes pour une bonne période de temps. Donc là, tu parles des cols bleus, tu parles de gens qui sont sur des contrats de 5 ans. Ce n'est pas des avocats qui ont la capacité de changer leur taux relativement rapidement. Ce n'est pas des financiers qui peuvent changer le prix de ce qu'ils échangent rapidement. C'est généralement des gens qui soit sont sur des contrats fixes ou qui sont sur des valeurs fixes de leur revenu de, disons, 300 $ par mois d'un régime de retraite sur lequel ils ont contribué pendant 30, 40, 50 ans. Donc, la redistribution se fait généralement régressivement. Donc, il y a une bonne littérature entre l'inflation et les inégalités, dans le sens que l'inflation est généralement régressive.
Mais pourquoi des économistes, mettons comme Keynes, eux autres voulaient de l'inflation assez élevée, ils lui disaient que ça faisait l'euthanasie de la rente, puis je ne sais plus trop quoi. Là.
Bon, mais après, il faut qu'on parle de Bitcoin, là, parce qu'il y a une réponse à ça, mais la réponse de Keynes là-dessus, c'est parce que c'est pas comme si l'inflation, là, c'est là qu'il y a vraiment des gros débats, mais la manière de le simplifier, c'est que quand tu as un choc sur la demande, on ne s'attendait pas du tout à ça, puis c'est un choc négatif. Si les prix sont difficiles à ajuster, parce que techniquement, qu'est-ce qui se passe? Disons, là, demain matin, il y a comme la moitié des banques disparaissent. Tout l'argent que les banques créent disparaît, un choc sur la masse monétaire, la demande agrégée doit baisser.
Mais techniquement, ce que ça veut dire, peut-être juste concret, ce que tu viens de dire là, c'est que les entreprises qui ont peur à l'avenir, par exemple, vont arrêter d'investir, vont arrêter d'emprunter à la banque. Fait qu'on diminue l'investissement, on diminue les emprunts vers la banque. Et éventuellement, ce que ça fait, ben c'est ça, ça vient restreindre la masse monétaire à cause de cette baisse de demande-là. Fait que quand Vincent parle de choc de la demande, principalement, ça va venir d'abord et avant tout des entreprises qui, le projet d'agrandissement qu'on a, il y a trop d'incertitudes économiques, j'arrête, j'attends et on verra plus tard.
C'est sous une condition super importante. C'est quand il y a un choc de la monnaie, ça ne change absolument rien à ta productivité. Right? Au final, là, ce qui compte, c'est combien je produis de cours pour le nombre de pizzas que tu produis puis qu'on s'échange entre nous deux. Mais l'échange qu'on se fait, c'est qu'on le fait en dollars pour simplifier la conversation parce qu'on ne peut pas quoter quelque chose en pizza, en hamburger, en cours d'économie. Ça devient impossible à faire. On utilise la monnaie comme une sorte de voile pour échanger. Mais si... on peut juste ajuster nos prix automatiquement comme ça. La quantité de monnaie en circulation, ça a zéro effet sur... Ça ne crée pas de récession. Ce qui crée une récession, c'est si c'est difficile d'ajuster les prix. Donc, ça devient comme le voile se met... Puis il y a une analogie, ça s'appelle le fluttering veil. C'est que tu bouges... Imagine que tu fais des ombres chinoises puis que tu bouges le voile sur lequel tu bouges. Bien, l'image que tu fais avec tes doigts sur le drap, que tu essaies de faire, en le faisant bouger, ce n'est plus la même chose. Bien, l'idée de l'inflation ici, dans ce cas-ci, c'est que si tu as trop de contractions monétaires à un certain moment, puis que tu ne peux pas ajuster les prix difficilement, la seule manière que les firmes peuvent s'ajuster, c'est de réduire les quantités. C'est ça qui cause une récession. Là, tu as une justification pour l'inflation. Tu dis, ben, je vais mettre juste un petit peu d'argent pour que les prix puissent s'ajuster en réponse à ça. Donc, tu n'as pas une récession qui se fait à cause qu'une banque fait faillite, par exemple. C'est un peu ça la logique de la défense de Keynes de l'inflation. C'est que si tu as des prix, s'il y a une rigidité des prix, tu as une justification pour augmenter la monnaie, la quantité de monnaie en circulation. Le problème, c'est que ça ne nécessite pas nécessairement une banque centrale. D'une part, il y a énormément de défense à faire de ce que les systèmes privés qui existaient avant faisaient très bien ça. Et aussi, et ça, c'était un gars qui s'appelait William H. Hutt, qui était un des meilleurs économistes, selon moi, de l'histoire. C'est juste qu'il écrivait très mal. Mais il était aussi à la périphérie. Il était d'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, le grand défaut que ça avait, même s'ils avaient des économistes incroyables, c'est que t'es au fin du monde. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te rendre à des conférences, tu peux pas publicier ton travail facilement. Mais lui, ce qu'il disait, Internet, c'était... Ben, c'est ça, dans l'époque pré-Internet, mais lui, il avait fait un point où est-ce qu'il disait la quantité de rigidité des prix dépend des autres interventions de l'État. Donc, l'État crée lui-même le problème qu'il est supposé solutionner. Et Hutt était vraiment... Mais il était Hutt. dans ce point-là. Là. Mais l'idée ici, c'est que si tu as ce problème-là, OK, d'accord, tu as une défense de l'inflation que tu peux faire pour augmenter les prix puis éviter une récession. La question, c'est est-ce que les banques centrales sont vraiment capables de faire cette job-là? Est-ce qu'ils sont capables de bien le faire? Est-ce qu'ils sont capables d'identifier que c'est ça qui est en train de se passer? Parce qu'il y a plein de choses qui bougent en même temps. Quand on fait les graphiques pour nos étudiants, je donne le cours, par exemple, de macro intermédiaire des fois, puis je leur présente ça, puis ça a l'air tellement facile. Right? Tout ce que la Banque centrale a à faire, c'est d'ajouter un peu d'argent, puis c'est réglé. Hein? Dès qu'ils ont vu cette courbe-là se déplacer, mais c'est très difficile à identifier la courbe se déplacer, les attentes des gens à l'égard de la courbe. Des fois, il y a d'autres facteurs qui bougent à travers le monde.
Plusieurs problèmes. Fois, ta mesure d'inflation, souvent, est difficile parce que, regarde, l'inflation, OK, tu vas prendre un panier de services, de biens, tout ça, mais là, tu regardes, on imprime beaucoup d'argent, mais tu crées une bulle d'actifs. Tu sais, à un moment donné,
t'es... Mais des fois aussi, c'est que tu peux avoir la même chose que tu observes sur le marché parce qu'il y a deux causes différentes. Par exemple, tu peux avoir de la déflation. C'est ça le signe, généralement. C'est ça que les banques centrales avaient peur en maudit. C'est que quand il y a de la déflation, ben, ça veut dire qu'il y a un choc sur la demande qui est négatif.
Ouais. Comme il y a eu au Japon, mettons.
Oui, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a des gains de productivité tellement élevés et qui était inattendu, right? Et l'effet que ça a, c'est que les gens disent, ben là, maintenant, la quantité offerte peut se déplacer davantage, et donc, tu es obligé d'avoir un peu de déflation en résultat de la productivité.
Donc là, parce que de la déflation, c'est une baisse des prix. Les prix baissent parce que c'est plus productif, fait que le consommateur peut avoir un meilleur prix sur ce qu'il achète, éventuellement.
Mais dans ce cas-là, c'est pas du tout un problème. Ce type de déflation-là est absolument... bénéfique. Il y a de la bonne déflation, il y a de la mauvaise déflation, tout comme il pourrait y avoir de la bonne inflation. Parce que c'est ça que les économistes qui se défendent les banques centrales disent, c'est qu'il y a de la bonne inflation, il y a de la mauvaise inflation. Je te concède, mais ça veut dire aussi que ça marche de l'autre côté. Hein?
Ouais,
c'est qu'il y a de la bonne déflation, puis il y a de la bonne, de la mauvaise déflation.
Le problème qu'on a eu dans la pandémie, c'est que tu as eu un choc de demande, assez évident, mais tu as eu exact, tu as eu aussi ton choc d'offres. Fait que là, quand tu arrives, tu t'amuses avec les graphiques pour essayer de voir qu'est-ce que ça fait.
Ce qui est difficile, c'est c'est quoi la pente? Parce que là, imaginez les graphiques, là, offre et demande. La question, c'est quoi la pente de la courbe d'offre? Est-ce qu'elle est plus prononcée, moins prononcée? Est-ce que la courbe d'offre s'est déplacée plus ou moins que la courbe de demande? Puis là, il faut que tu fasses la décomposition de ça pour arriver. Parce que graphiquement, c'est facile à voir de manière stylisée. Mais les magnitudes, les amplitudes de la chose dépendent de qu'est-ce que les courbes ont vraiment l'air. Et là, ça devient très difficile à essayer de concevoir ça. Puis c'est difficile pour des économistes les plus brillants de le faire convenablement. Essaye d'imaginer...
Essaye d'imaginer un politicien.
De le faire en classe, c'est difficile pour les étudiants, déjà pour les profs, de l'expliquer. Essaye de le faire pour maintenant une économie en réalité avec moins d'abstraction, plus d'informations, plus de contraintes, parce que là, tu as le jeu politique en classe. Il n'y a pas de jeu politique avec mes étudiants. Là. Non, non. La monnaie, c'est la monnaie, puis c'est la monnaie, puis that's it. Mais il n'y a pas de politicien qui veut utiliser la monnaie pour faire du seigneurage, pour faire des revenus à travers ça, pour financer sa dette. Je n'ajoute pas tout le mécanisme politique. Ça devient presque impossible. Puis c'est là que je veux parler juste vraiment vrite de Bitcoin. C'est que ce qui met en discipline les acteurs, pour au minimum simplifier, c'est qu'il faut qu'il existe des contraintes sur ce que les gouvernements font avec l'argent. Si on a enlevé toutes les règles qui existaient avant, l'étalon or ou la compétition entre les banques ou de la compétition monétaire, qu'est-ce qui nous reste? Ben, des mécanismes alternatifs aux banques centrales. Donc, c'est là que Bitcoin, pour moi, ça, c'est vraiment intéressant parce que là, ce que tu as, c'est que tu as quelqu'un qui essaye de faire compétition avec un mode de paiement qui a une valeur qui dépend de comment est-ce que les gens veulent l'utiliser, mais qui devient donc un actif qui a une valeur, mais qui n'est pas contrôlé et qui est, en fait, je pense, très difficile à contrôler.
Décentralisé totalement.
Oui, mais non seulement décentralisé, mais difficile pour les gouvernements de pouvoir gérer et contrôler. Et il y a une raison pourquoi la plupart des gens dans les gouvernements sont très hostiles au Bitcoin, ou quand ils ne sont pas hostiles ouvertement, ils sont comme, mais là, on pourrait essayer de trouver une manière de les coopter, puis je suis comme, non, 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 tu n'as pas compris, je veux pas que tu les cooptes. Ce qu'ils font présentement, ouais, c'est qu'ils restent, ils te créent un périmètre plus clair et plus contraint dans lequel toi, comme banque centrale, tu as les mains plus attachées, tu as moins d'options, et donc tu dois te discipliner. Mais ce qui est magique, c'est qu'en même temps qu'ils font ça, c'est parce que Bitcoin envoie de l'information sur ce que les gens s'attendent.
Oui, puis quand tu vas dans un pays, on va dans des extrêmes comme Venezuela, par exemple, des choses comme ça, les gens, grâce au Bitcoin, vont avoir une alternative. Si vraiment il y a une utilisation défectueuse de la monnaie qui crée une hyperinflation, comme dans ces pays-là est arrivé, bien, des gens qui ont des capitaux vont avoir tendance à se tourner vers une alternative comme ça pour dire, bien, au moins, je vais protéger mes valeurs. Si je m'évade du pays, je peux retrouver une partie de mes actifs.
C'est même pas juste ça, en fait. Je pense que, puis ça, j'aimerais ça que quelqu'un fasse un article là-dessus. Je peux peut-être faire l'hypothèse, oui, tu as raison, je pense pas que tu as tort, mais je pense qu'on sous-estime qu'est-ce que ça a comme effet pour les plus pauvres. Oui. Parce que avec le fait que la téléphonie cellulaire est tellement facile à accéder aujourd'hui, que c'est possible pour les gens, les plus pauvres, justement, de pouvoir avoir accès à, au minimum, cacher une partie de leur richesse dans ce mécanisme-là, et donc de pouvoir échanger. Et l'hypothèse, par exemple, tu dis le Venezuela, je serais sûr que si on regardait qu'est-ce qui se serait passé si le Venezuela n'avait pas eu Bitcoin, il y aurait probablement présentement plus de décès, plus de malnutrition, parce que les rapports que je vois de certains de mes collègues qui travaillent sur Bitcoin, moi, je travaille très périphériquement, je ne travaille même pas sur Bitcoin, je fais juste lire à côté.
C'est super intéressant, là, tout le monde comprend ça.
Mais ce que ça fait, c'est que ce qu'ils disent, c'est qu'il y a énormément d'échanges qui se font en Bitcoin, puis que tu as un circuit monétaire complètement différent qui a émergé en opposition au système monétaire officiel du Venezuela, qui est un système absolument
épouvantable.
Épouvantable, puis, présentement. Là.
Un mot, moi, par rapport au Bitcoin, c'est je suis souvent dans une position pour en parler un peu malgré moi, parce que ça devient souvent talk of the town, puis c'est toujours quand ça monte, là, c'est jamais quand ça baisse, c'est toujours quand ça monte, parce qu'à cause de la finance et tout ça. Puis ce qui me gosse là-dedans, c'est toujours ça, c'est quand tu regardes les grands principes économiques de Bitcoin, c'est réellement fascinant. Tout le principe de la décentralisation, tout ça, la technologie s'accroche. Sauf que l'environnement crypto-monnaie au complet, et comme n'importe quel environnement complètement déréglementé, il y a des affaires tout croche au travers, qui s'auto-réglementent tout seul, puis tout ça. Il y a des peu cochonneries là-dessus. Puis là, je ne parle pas du Bitcoin, on va parler de toutes sortes de crypto. Il y a à peu près 10 000 crypto-monnaies. Là. Je veux dire, si vous en voulez de la merde, là, il y en a comme c'est pas possible. mais quand tu arrives et tu dis que tu parles de ces choses-là, moi, ce qui me fascine tout le temps, c'est que ça revient tout. Tu ne peux pas en parler plus que 30 secondes sans qu'on parle de l'aspect plus spéculatif où on détient des bitcoins pour que ça monte. What the fuck? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport parce que toute l'infrastructure bitcoin, sa réelle utilité économique à long terme. Puis là, je ne parle pas, quand je dis long terme, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. C'est pour peut-être les 30 ou 40 prochaines années. C'est vraiment quelque chose qui va se développer puis qui va nous permettre d'avoir justement une alternative à notre système central de banque centrale. Sauf que c'est pas vrai que les gens, les vrais de vrais believers là, qui croient au Bitcoin, parlent de ces aspects-là. mais on arrive souvent à bifurquer vers le spéculatif pour attirer des investisseurs qui veulent faire un argent vite, comme si une pelule pour maigrir venait d'exister. Là. Un rendement normal, c'est 200 % par année dans quelqu'un qui investit dans le Bitcoin. Là, tu dis, premièrement, c'est un actif monétaire. Je veux dire, théoriquement, tu n'es pas là pour un rendement. Tu es là pour protéger tes actifs, pour avoir une stabilité, une certaine stabilité. Puis éventuellement, tu veux que ça devienne quelque chose qui va être utilisé réellement comme une monnaie. Donc, moi, le prix de ma pinte de lait, elle ne change pas tous les jours.
Si tu achètes de l'or, tu ne t'attends pas à ce que ça double de valeur à toutes les années.
Exactement.
Non, en effet, mais
c'est parce là qu'on voit une immaturité un peu encore dans le Bitcoin qui va se corriger dans le temps.
Non, je pense pas que tu es fair ici. Je pense que les gens, il y en a que vraiment... Parce que la promesse du Bitcoin, c'est ça qui fait que les gens sont prêts à faire l'achat, c'est que tu es en train de faire la promesse que s'ils réussissent à devenir un mode de paiement généralement accepté, un, tu vas avoir un rendement gigantesque puis que la volatilité va arrêter. Présentement, tu prends des
risques. On n'est pas là.
Mais ce n'est pas impossible. Parce que la question ici, c'est d'une part, premièrement, ce qui crée beaucoup de volatilité dans le Bitcoin, c'est le va-et-vient des gouvernements à l'égard du Bitcoin. Ça a beaucoup plus d'effet que ce qu'on réalise. Parce que là,
t'as toutes les affaires louches aussi quand tu regardes les monnaies stabilisatrices qu'ils appellent, là, les Tether, les USD Coin et tout ça. T'sais, quand on parle de banque centrale qui imprime de l'argent out of thin air, là, ces cochonneries-là, c'est ça qu'ils font. Un moment donné, t'es là, tu te dis, il reste beaucoup de merde. En fait, ce que je trouve qui est injuste pour Bitcoin, c'est qu'on accole tout l'environnement spéculatif, tout ce qui est weird des crypto-monnaies, on colle avec eux, tandis que Bitcoin est supérieur à toutes les autres.
Là. Ouais, attends une minute. Moi, j'aille ça, les gens qui dénigrent la spéculation. La spéculation, techniquement, c'est super. Parce que la spéculation, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que les gens parient sur les valeurs futures. Et eux, ce qui se passe, c'est que les spéculateurs, ce qu'ils font, eux, ils prennent énormément de risques pour se spécialiser dans donner de l'information sur le présent. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire, tu sais, qu'il n'y a pas des désavantages à la spéculation, mais quand tu l'enlèves, c'est encore pire. Parce que quand tu regardes, par exemple, des marchés sur lesquels tu permets de la spéculation...
Ah, ça, je suis d'accord.
Fait que c'est vraiment important comment ça améliore les choses. Puis ici, je pense que l'effet du Bitcoin, c'est peut-être la promesse du Bitcoin, en fait. C'est que je pense que plus ça va gagner en popularité, plus ça va contraindre les gouvernements. Parce que ça pourrait être ça, le bénéfice. Hein? C'est possible que tu perds de l'argent, au final, que la valeur va baisser, puis ou ça va rester où est-ce que c'est, ou que tu as acheté à un high, puis finalement, ça se restabilise bas. Mais c'est possible qu'à cause que ça a eu un high, les gouvernements ont fait, OK, là, il y a le risque que Bitcoin arrive à un tipping point où est-ce que les gens vont vraiment faire l'effort d'apprendre et bifurquer. Dans un cas comme ça, ça pourrait être que l'effet positif, c'est que les banques centrales, les gouvernements, se restreignent dans leurs efforts de création monétaire et se commettent à des règles, pas nécessairement des règles écrites ou des règles claires, mais comme une sorte de zone qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas transgresser à cause de ça. Donc là, tu es gagnant sur cette dimension-là.
On revient à ton argument sur la monarchie. La monarchie aidait...
Garde-fou.
Garde-fou, exactement. Bitcoin pourrait jouer effectivement ce rôle-là. Moi, ce que je te dirais, ce qui arrive, c'est que je suis groundé sur le plancher des vaches. Hein. C'est tout le temps ça mon grand problème. Je veux dire, quand le Bitcoin monte beaucoup, je reçois les appels téléphoniques de dames de 45 ans qui viennent d'avoir un montant de 1,5 million parce qu'ils ont vendu le parc immobilier et qu'ils veulent tout crisser là-dedans. Là. Tu sais, moi, je suis sensible à ces affaires-là. Parce que...
La réponse est toujours que tu devrais diversifier. Tu ne devrais jamais mettre tous tes œufs dans le même panier. Puis,
je vais te donner un autre exemple qui est arrivé avec le Dogecoin, qui est plus récent. Tu sais, quand on parle de monnaie louche, le Dogecoin, c'en est une pas pire. Quand j'arrive, j'ai un kid baseball professionnel dans ma clientèle. Il fait son rookie ball. Tu sais, il est avec d'autres gars de 17, 18, 19 ans. Ils ont tous signé des signing bonus qui va de 40 000 à 300, 400, 500 000. Tu sais, c'est vraiment de même que ça marche dans les ligues majeures. Tu as ton signing bonus en décollant. Fait qu'il y a des jeunes de 18 ans qui ont beaucoup d'argent dans le compte de banque.
Hey, ils ne savent pas quoi faire.
Ben, écoute, un moment donné, il m'appelle, puis il dit, écoute, dans le stade présentement, là, les gars, on a fini notre pratique, on attend le match de l'après-midi, puis présentement, tout le monde est en train de parler du Dogecoin, tout le monde est en train d'en acheter live, il dit « je devrais-tu embarquer là-dedans? » C'est non. sûr que le spéculatif amène beaucoup les jeunes qui sont vraiment plus aptes à prendre des grands risques, ils ne veulent pas. Sauf que quand tu vois toutes ces histoires-là, tu te dis, tu sais, c'est des gens comme moi, probablement, qu'il faut qu'ils fassent leur job, dire « hey, diversification, comme tu viens de dire. » Hey, attends, tu sais, c'est spéculatif. Ouais. Donc, que tu mettes 3%, 5% de ton portefeuille là-dedans, who cares? Mais si tu t'empruntes pour mettre ça là-dedans, je veux dire, tu vas te tirer une balle là, maintenant.
Ben, Yann, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, je ne sais pas si tu étais là cette fois-là, mais j'étais à la radio, puis il y a un gars qui a appelé, puis il y avait un gros buzz Bitcoin, ben, ça avait monté beaucoup, puis il y a un gars qui avait appelé, puis il avait dit j'ai hérité de 200 000 d'une tante. Puis je pense à mettre ça dans le Bitcoin, qu'est-ce que vous feriez? Puis là, ben, les gens étaient comme, ben là, tu veux pas trop donner de conseils?
Tu peux pas.
Ben, tu peux pas. Ben, tu sais, mettons, tu peux dire, ben, moi, si c'était moi, j'aurais fait ça, là, tu sais. Mais je veux dire, c'est parce que toi, tu peux gérer des drames humains là, dans ta position. Tu sais, moi, je peux donner mon avis out of nowhere à quelqu'un que je connais. Vincent peut dire ce qu'il pense aussi, mais tu sais, toi, dans ta job, c'est...
Ben, premièrement, moi, je dis jamais ce que je pense financièrement en termes de qu'est-ce que je fais comme investissement. Tu remarques que j'ai donné des commentaires très génériques.
Oui, je le sais, mais ce que je veux dire, Vincent, c'est que tu pourrais me le dire hors d'onde, entre nous. Là, tu sais.
Si je le savais, c'est quoi qui était parfait à faire,
tu
je
ne le
dirais pas. C'est ça, c'est vraiment la chose que... Puis c'est ça, ça revient à ce qu'on disait sur les conseillers financiers. Pourquoi t'embauches un conseiller financier? Pas parce qu'il va te faire comme plus que le marché. S'il était capable de faire plus que le marché, il t'offrirait pas ses services. La raison que t'embauches un conseiller financier, c'est parce que tu veux pas avoir à gérer l'activité exact. Coûteuse, qui est très, très coûteuse, de gérer tes actifs sur une base quotidienne. Parce qu'il y a plein de mini-transactions qu'il faut que tu fasses, peut-être pas quotidiennement, mais de manière au minimum hebdomadaire, où est-ce qu'il faut que tu fasses des ajustements, il faut que tu fasses des checks. Puis ça, là, au minimum, disons que toi, tu faisais ça 3 heures par semaine là-dessus. C'est 3 heures que tu ne passes pas sur autre chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut le faire bien plus cheap que toi. Il le fait en 20 minutes parce qu'il check comme 20 portefeuilles d'une shot. Puis, il les a classifiés. Il y a un système d'organisation. Peu importe c'est quoi, il y a une économie d'échelle que lui a à faire dans le traitement de cette information-là. C'est pour ça qu'on embauche des conseillers financiers. Voyez pas les conseillers financiers comme des gens qui vont vous sécuriser du 30 %. Leur job, c'est de faire ce que le marché réussit à faire. Puis, s'ils sont si bons que ça, ils vont pas les offrir leurs services. Ils vont aller emprunter, faire du leverage, faire la pièce.
Totalement
c'est
vrai.
C'est ça que je dis à mes étudiants quand ils me disent, on va parler de je donne la perception finance, genre dans le cours de macro. Je dis tout ce que je vais vous dire, si je savais c'était quoi qui faisait de l'argent, je ne vous le dirais pas. J'irais prendre un gros leverage, le plus gros leverage que je peux avoir. J'irais faire le call que je fais. Moi, j'achèterais une île dans les Caraïbes. Je ferais juste boire toute la journée.
Ben oui, ben oui, ben oui.
Des livres.
Oui,
ça serait
c'est
ça.
Comme, ben oui, c'est comme les gens qui font de la voyance ou qui tirent les lignes de la main ou je ne sais pas quoi. Là, si ça fonctionnait, ils achèteraient des
exactement.
Ils investiraient de l'argent et ils ne seraient pas sur le BS en train de mettre des annonces sur le marketplace.
OK, là, tu étais un peu cheap, mais il y avait un diagramme que j'ai adoré qui a été posté par mon ami Cornelius Christian de Brock University. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il y a toutes les choses, que les pratiques étranges comme la clairvoyance ou le magic stick pour trouver de l'eau. Puis là, c'est toutes ces espèces d'affaires-là. Puis
ma mère m'a dit que ça marche.
La première colonne, c'est ça. La deuxième colonne, c'est « What would the private sector » gain from this. Right? Qu'est-ce que le secteur privé réussirait à faire si c'était vrai? Est-ce que la dernière colonne, c'est est-ce que le secteur privé le fait?
Right? Non.
C'est incroyable parce que dans le Magic Stick pour trouver de l'eau, il est écrit exploration pétrolière. Est-ce que le secteur privé le fait? Non. Probablement pas vrai. Voyance. Placement financier. Est-ce que le secteur privé le fait? Non, probablement pas vrai.
Certains politicos le faisaient, par contre. Il y en a des politiciens qui avaient le voyant.
Ben, je vais en compter une, parce qu'on devrait passer à une autre question. Oui.
Ah, mais on a fait 3-4, là. On est bon.
Ah, non. En couvrant le Bitcoin, on est rendu à 6 questions de fait. Là. On a fait 2 questions sur la dette, 2 questions sur le...
Sur l'inflation.
Sur l'inflation. Fait qu'on a couvert beaucoup déjà de terrain, mais il y en a une histoire qui ça vaut la peine de compter. Puis c'est pour ça que, tu sais, c'est l'histoire qui me fait dire que jamais je vais toujours avoir une sorte de réticence à l'égard des gouvernements dans la monnaie. C'est quand il y avait une courte période de temps dans laquelle le gouvernement fédéral aux États-Unis, pendant la Grande Dépression avec FDR, fixait le prix de l'or. Mmh. Et là, c'est raconté, cette histoire-là est racontée par le ministre des Finances de Roosevelt. Donc, c'est pas, tu sais, quelqu'un qui compte une histoire, c'est son ministre des Finances qui était aussi son meilleur ami. Et il dit qu'à un moment donné, il fixait le prix de l'or, puis Morgenthau, le ministre des Finances, il dit « Pourquoi 21? » Parce que c'est ça le prix qui était proposé. Puis Roosevelt répond « Ben, c'est trois fois le chiffre magique de 7. » C'est vraiment ça, là, puis c'est une histoire racontée, puis vous me croyez pas, là, c'est dans la biographie que Morgenthau compte de ses années dans l'administration de Roosevelt. Puis lui-même, il disait qu'il savait pas c'était quoi le New Deal. C'est vraiment la biographie, l'autobiographie la plus politiquement maladroite de l'histoire, parce qu'il essaye de défendre son ancien patron parce qu'il était son ami, mais il compte des histoires dans le processus que tu es comme, dude, tu n'es pas en train de l'aider. Tu n'aurais juste pas dû publier ça. C'est vraiment une sorte de... c'est souvent utilisé ça parce que Morgenthau était super... Il était politiquement maladroit, tellement que... Pas maladroit dans le sens... genre péronisme, là, ou est-ce que tu riais de lui, ou genre Yves Bolduc, mais maladroit dans le sens qu'il était tellement un boy scout qu'il ouvrait sa gueule et il disait des choses.
Dis pas ça.
Pas ça, man! Je comprends que c'est vrai, je comprends que c'est super honnête ce que tu as fait, mais tu peux pas dire ça. en tout cas, c'est ça. Mais passons à une autre question.
Mais juste closer sur le Bitcoin. En fait, ce que je trouve injuste pour le Bitcoin, c'est qu'on en parle juste quand ça monte. Dans le sens que toute l'infrastructure que ça représente réellement, puis le réel projet de tout ça, n'obtient de la crédibilité juste quand il passe de 3 000 à 21 000, puis de 21 000 à 60 000. Mm. Mais je veux dire, c'est pas ça le Bitcoin. C'est pas... T'auras beau arriver et dire que ça a fait 250% dans l'année, c'est zéro ça le Bitcoin. Quand tu regardes vraiment qu'est-ce que c'est une tentative qui, pour l'instant, est fructueuse de créer une monnaie complètement décentralisée dans laquelle plusieurs personnes vont avoir confiance dans la valeur de ça. Je veux dire, c'est quand la dernière fois c'est arrivé? Ça fait vraiment longtemps. Je veux dire, il y a de quoi de beau dans le Bitcoin? Puis, pour être fair, j'en détiens aucun. Puis la raison pourquoi j'en détiens pas, c'est que ça ne m'attire pas un actif qui fluctue de cette façon-là. Je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Sauf que la journée que le Bitcoin va gagner sa crédibilité, va gagner sa stabilité, va devenir une monnaie facilement échangeable, je doute que je n'en possède pas. Là. J'ai l'impression que je vais participer à ce moment-là parce que je vais accomplir ce que je veux avec le Bitcoin, c'est d'avoir une valeur relativement refuge, relativement stable, mais surtout à l'abri des gouvernements. Je veux dire, la journée qu'ils vont réussir ce feature-là, les gens qui spéculent présentement, qui investissent là-dedans, ils ramasseront la reward du succès que ça aura. Mais moi, c'est l'aboutissement de ce projet-là, Bitcoin, la journée que ça va arriver, je vais probablement en détenir à ce moment-là parce que je trouve que c'est fantastique ce qu'il essaie de faire. Mais seule affaire, c'est que présentement, on est dans un mood où est-ce qu'on en parle juste quand ça monte, puis on l'achète pour des mauvaises raisons plus souvent qu'autrement.
Mais il n'y a pas eu aussi, moi je ne connais pas énormément le Bitcoin, là, je suis ça un peu comme tout le monde, peut-être plus que tout le monde, mais je veux dire, je suis ça comme observateur, là, je n'en détiens pas non plus. Là. Mais il me semble que j'ai remarqué qu'il y a eu un glissement dans le discours au fil du temps, qu'au début, on nous disait que le Bitcoin était une monnaie, une crypto-monnaie, que puis là, on nous disait éventuellement, tu vas pouvoir aller dans un guichet automatique puis échanger à l'échange des dollars, tout ça. Puis progressivement, les gens qui en parlent beaucoup ont fait un espèce de glissement de la monnaie vers la valeur ou l'actif. Puis là, on nous disait, ben non, mais c'est pas grave si tu peux pas acheter nécessairement avec ça facilement parce que ça deviendrait pas l'idée de dire, ben j'ai acheté une terre à bois, mais ça sert à rien parce que je peux pas acheter avec des arbres, des...
Ouais.
Que je veux dire. Il y a eu comme un glissement dans le discours alentour du Bitcoin.
Je ne sais pas si j'ai entendu la même chose. Moi, j'entends encore que la prémisse, c'est vraiment que ça peut devenir un système d'achat. Puis en fait, écoute, le fait que la grosse nouvelle des dernières semaines, c'est que on devrait mettre un poids là-dessus parce que ce n'est pas exactement le régime le plus beau d'Amérique latine, là, mais l'El Salvador a dit
un
que...
régime beau en Amérique latine?
Oui, le Chili. Wow. Le Chili est une démocratie libérale qui réussit à persister. En fait, c'est ça
le gros. Vincent Pro Pinochet. Carrément.
Ouais, c'est ça. Là.
C'est réglé.
C'est ça. C'est exactement ça que j'ai dit.
Crédibilité, man.
C'est exactement ça que j'ai dit. Écoute, tu peux faire une clip Radio-Canada à partir de ça. Parce que j'ai dit que le Chili aujourd'hui, c'est une démocratie libérale. C'est exactement ça que ça veut dire.
Ça va passer. Puis, comment c'est ça comme s'appelle,
si.
Là?
Puis c'est la même logique que si tu dis l'Allemagne est une démocratie forte aujourd'hui, c'est que je viens d'endosser la Deuxième Guerre mondiale. Au complet. C'est ça que j'ai dit. Là,
de toute façon, cet extrait-là va passer à la soirée T'es encore jaune.
Ah, je suis tellement content. Écoute,
ben oui, on a Olivier Niquet comme abonné maintenant. Man, plus, c'est sûr que tu vas être. Écoute, tu vas avoir ta photo à la soirée T'es encore jaune avec Pinochet à côté. C'est évident.
C'est sûr, c'est exactement ça que j'ai dit. mais ceci dit, il y a quelque chose à souligner. La chose que j'ai jamais réussi à comprendre, puis c'est ça le grand dilemme pour à propos du Chili comme question. C'est comment est-ce que Pinochet a réussi à prendre... Là, il faut se souvenir que le Chili était, des années 60 à 70, en complète décrépitude politique. La violence, tant de gauche que de droite, était fréquente, récurrente, incroyable. Allende, qui était le président que Pinochet a déposé, avait son parti avait une milice paramilitaire. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Tu étais rendu à un état...
C'était pas des doux, là.
Ouais. C'était pas des doux, mais ce qui me fascine, c'est que en 1990, Pinochet a quand même démissionné de sa position.
Oui.
Comment, c'est ça la grande question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans la démission de ce gars-là qui a fonctionné? Parce que là, c'est comment tu fais? Parce que à toute fin pratique, la manière dont certains collègues...
Autrement dit, c'est qu'est-ce qui a amené le système à le forcer à démissionner? Là?
Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont acheté à toute fin pratique. La manière dont le deal a été fait, c'était qu'il devenait sénateur. Donc, il gardait en étant sénateur une immunité. Donc, il y avait une protection qui était faite pour lui. Donc, ce qu'ils ont fait fondamentalement, c'est qu'ils ont acheté une démocratie là-bas en lui disant, on ne va pas te punir de ça, donc tu peux démissionner comme dictateur. Il y a peut-être 3 ou 4 cas dans l'histoire humaine où un dictateur démissionne de cette manière-là. Et c'est ça que moi qui me fascine avec l'exemple du Chili, c'est que ça aurait pu après, parce que les cas sont rares de telles démissions, mais que ça ensuite, parce que là, tu regardes le Chili, tu le compares avec l'Argentine, tu le compares avec le Pérou, tu le compares, il n'y a pas de violence organisée au Chili. Il n'y a pas de groupe terroriste comme tu as eu jusqu'à le début des années 2000 avec le chemin du... Shining Path au Pérou. Tu n'as pas de défaut ou de révolte politique avec une dictature quasi-militaire, une quasi-dictature militaire en Argentine. Tu n'as pas des régimes populistes comme tu as en Bolivie ou au Paraguay qui réussissent à arriver. Tu n'as pas la corruption endémique que tu as au Brésil. Qu'est-ce qui fait? Tu n'as pas les guerres de drogue que tu as en Colombie. Qu'est-ce qui s'est passé au Chili pour que le Chili soit comme cette espèce d'espoir de liberté politique et économique au milieu de l'Amérique latine. Surtout que c'est un pays qui a une géographie vraiment étrange. Tu pourrais mettre le Chili, si tu compresses la carte du monde, la manière dont le monde a vraiment l'air, parce que vos cartes ont l'air étranges parce qu'on essaie de mettre en des proportions égales, mais si tu réussissais à le mettre sans respecter le... Parce que c'est difficile de faire une map plate d'un truc qui est un globe. Mais quand tu gardes des proportions égales, là, les vraies proportions, le Chili, c'est à peu près, si tu faisais une ligne droite de Los Angeles jusqu'au Maine. Ça, c'est un pays, mais qui est une sorte de petit rectangle. Right? C'est un long rectangle, mais il n'est pas très large. Puis c'est comme un corridor qui va de Los Angeles jusqu'à Portland, Maine. What is that? Comment tu gères une polité aussi étrange que ça, qui est entourée de voisins violents, qui est excessivement montagneux, qui a un relief, tu sais, qui où est-ce que si tu voulais avoir des rebelles ou des gens qui s'organisent violemment, qui se cachent dans les montagnes, ça serait super. Il y a quelque chose d'exceptionnel à propos du Chili qui les gens qui en parlent ont dû faire c'était Pinochet qui était une ordure. Oui, c'était une ordure, il n'y a aucune question là-dessus. Puis je suis content que d'une manière, il a réussi à être extradié pour faire face à des crimes. Puis que le deal qu'il a fait n'a pas été super respecté. Moi, je trouve ça super parce que c'est comme la parfaite justice. On a réussi à te faire démissionner, puis après ça, on te fait payer le deal. mais ceci dit, c'est quand même fascinant de voir ça. Puis si tu t'en tiens juste à « le gars était une ordure », tu oublies le fait que c'est la seule ordure qui a décidé de démissionner de sa position d'ordure. c'est exceptionnel dans l'histoire humaine, ce moment-là. Puis comme social scientist, c'est malaisant de devoir d'évaluer cette question-là parce que t'es dans la zone la plus grise possible de l'évolution institutionnelle. Mais c'est cette zone grise-là dans laquelle tu as peut-être les plus grandes réponses que tu pourrais trouver. Si tu as vraiment un commitment sérieux à la préservation de la liberté humaine, tant politique qu'économique, que sociale, que religieuse, toutes les grandes dimensions de ce qu'on dirait une vie libérale, ben répondre à la question de cette transition-là, parce qu'il y a des transitions, il y en a qui ont échoué, hein. Les pays, tu te suffit de regarder Orban en Europe centrale, en Europe de l'Est, de regarder la République tchèque, qui est une démocratie, tu sais. La Biélorussie, l'Ukraine, les cas de transition.
Tous les anciens pays communistes.
Oui, mais les exemples de transition, c'est difficile de devenir une démocratie libérale. Et le Chili, non seulement l'a réussi, mais il l'a réussi en 20 ans. Ça, c'est... La Grande-Bretagne, ça a pris de la Magna Carta jusqu'au Emancipation Act de 1832, donc à peu près 600 ans. Le Canada, on parle d'à peu près 150 ans. Les États-Unis, pour que... Si on prend le vote des Noirs comme étant... en fait, pas juste le vote des Noirs, mais le vote, c'est autorisé, pas juste légalement autorisé, mais que tu n'as pas de restrictions dans les États ou de discrimination qui s'applique différemment selon des électeurs puis leur race. Tu parles des années 60, donc les États-Unis, tu parles d'une expérience, d'un processus de maturation démocratique qui prend, mon Dieu, 300 ans?
Ouais.
Puis le Chili réussit ça en 20 ans, tu réalises-tu l'amplitude du phénomène social que tu peux étudier juste en te concentrant sur l'exemple du Chili. Si c'était pas aussi politisé, les chercheurs en sciences sociales seraient pitchés sur cette question-là parce qu'il y a c'est tellement une zone à la marge et riche. En tout cas, ça me fâche la politisation de la question.
Ça va se faire, mais tu sais, justement, ça va prendre du temps à cause de cette politisation-là. Parce que, tu sais, la manière que je t'ai nargué en disant que tu étais un admirateur de Pinochet, ça reste que c'est ça qu'on se fait faire quand tu veux parler de choses comme ça. Là.
Ouais, peut-être que ça va pouvoir venir, mais d'eux-mêmes, en fait, là, de chercheurs
chiliens. Mais moi, je pense qu'à partir de ça, on pourrait poser la question, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la question, si, tu sais, si on allait en politique ou tout ça.
Ouais, c'est là que je voulais aller, justement. Là. Si,
ouais, ouais. Ben, lis la question.
Oui, ben dans le fond, je peux la résumer. Là, si jamais Yann devient ministre des Finances, Vincent qui devient PM, là,
moi, je démissionne.
OK, Vincent démissionne, puis moi, je deviens ministre de je ne sais plus trop quoi. C'est quoi? Il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf augmenter les impôts et les taxes, s'il vous plaît.
Ben, je veux pas devenir politicien. C'est vraiment important. Puis ça fait partie un peu de... Parce que là, ce qu'on disait, là, par exemple, du Chili, ça revient au principe fondamental qui est ici. C'est que soit que tu crois que le jeu politique, c'est juste les joueurs. Les joueurs sont interchangeables. Ce qui compte, c'est les règles du jeu. Mais les règles du jeu, c'est pas juste nécessairement des règles constitutionnelles. Parce que des règles constitutionnelles, c'est juste des morceaux de papier. Ça vaut absolument rien. Puis il y a une vieille phrase, puis je le dis à mes étudiants quand je donne le cours de choix public. Je dis, ben, des lois, c'est juste des lois. C'est tout à fait possible. Puis il y a une phrase de Pompée Magnus, qui était le grand général romain, qui il est en train, à toute fin pratique, de tuer du monde. Puis les gens, ils disent, tu peux pas tuer un citoyen romain. Puis lui, il prend son épée, puis il dit, why do you quote laws to us who have swords?
Ouais.
Puis ça te montre que si tu veux vraiment des contraintes sur l'exercice de la violence par l'État ou même du pouvoir de l'État, tu sais, parce que là, je prends le langage est fort en parlant de violence, mais c'est l'État est fondamentalement le producteur monopolistique de la violence, veut être le producteur monopolistique de la violence. Comment tu en viens à le contraindre à ne pas utiliser cette violence-là? Ben, c'est les règles du jeu qui comptent. Ça peut être des règles constitutionnelles, mais ce qui les rend des règles de facto, pas juste de juré, c'est le fait que les gens peuvent quitter. Qu'il y a une société civile forte, une vie communautaire qui peut produire de la gouvernance sans que nécessairement l'État soit le producteur principal, que les gens ont des mécanismes d'adjudication de conflits, d'arrangements qui dépendent de normes plus volontaires. Donc, c'est une organisation beaucoup plus organique de la société civile, du marché, de l'entreprise, des choses qui viennent complémenter ou substituer à l'État. Ça, ça crée des contraintes de facto parce que les gens vont dire « Ah non, ce gars-là, il va servir telle personne, il va me nuire à moi. » Tu peux avoir aussi le fait que les gens peuvent quitter. Donc, laisser à tes citoyens la liberté de quitter et d'accepter les citoyens de d'autres pays, ben, c'est aussi une contrainte sur tes politiciens parce que tu veux continuer de les attirer puis tu veux éviter de perdre les tiens. C'est une contrainte. Même chose avec les capitaux. Donc, la manière dont moi, je vois le jeu politique, c'est que si vraiment tu veux avoir un effet sur le monde, c'est beaucoup plus important de se concentrer sur des marges sur lesquelles tu as un contrôle. Des entrepreneurs, Uber, Airbnb, Amigo Express, ont fait beaucoup plus en termes de bien-être humain que n'importe quel d'un entre nous qui irait en politique. Chaînon, des œuvres de charité ont fait les mêmes bienfaits en termes de protection du droit des gens qui sont vulnérables et marginaux parce qu'on leur a apporté un soutien, on leur a apporté des options pour dire ta violence que quelqu'un commet contre toi, que la police ne veut pas nécessairement policer, ou même que toi, tu ne veux pas aller voir la police parce que tu étais, par exemple, une travailleuse du sexe, puis que tu ne peux pas aller te plaindre à la police parce que tu vas te retrouver avec une amende ou quelque chose comme ça. Ben, dans ce cas-là, tu as comme des mécanismes indirects qui émergent par des charités qui donnent des options à ces gens-là pour s'enfuir en leur donnant refuge, en leur donnant de la formation, en leur donnant des chances que l'État ne leur fournit pas. Ben là, ce que tu fais, c'est que tu réduis l'ampleur du problème. Donc, la manière dont moi, je vois ma vie en société, c'est de me concentrer sur les marges sur lequel j'ai une influence. Et donc, je le dis ouvertement, je ne ferai jamais de politique. Je préfère me concentrer sur mon enseignement, sur mes œuvres caritatives avec le Chaînon, avec d'autres organisations caritatives. Je préfère me concentrer sur ces marges-là que de participer à la vie politique. Puis quand, en fait, il y a un gars, puis ça, c'est le livre que je pense que ça vaut la peine de lire. C'est par Christopher Freeman, qui est un philosophe à College of William and Mary, qui est un des plus vieux collèges aux États-Unis. Et il a écrit son livre « Why it's okay to ignore politics ». Et c'est un... En fait, je suis cité dans le livre, donc je suis un peu biaisé, là. Peut-être que c'est mon ego qui parle ici, mais Chris est vraiment un incroyable philosophe. Et là-dessus, je pense qu'il a raison. C'est tout à fait correct d'ignorer la politique.
Donc, Vincent démissionne, Yann.
Ben, la gang... C'est, l'affaire, c'est que j'accède jamais au poste, dans le sens que si j'accède à ce poste-là, c'est que j'ai corrompu mes idées à un moment donné. Parce que, réfléchissez, mettons, on parle de ministre des Finances dans la question. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire, je pense, qui est urgent, entre guillemets, au Québec, qui serait des bons coups à donner, mais qui ferait vraiment beaucoup de bien à notre économie qui est tout le temps un peu à la traîne. Là. Moi, je pense qu'il y a 2-3 paliers d'imposition de trop. Fait que il y aurait des baisses d'impôts, mais d'abord, ce serait d'abord et avant tout pour les riches, pour attirer des investisseurs. Je pense que les subventions aux entreprises, ce serait un gros zéro à la fin de l'année, après une année comme ministre des Finances. Tu sais. Les taux d'impôts corporatifs, s'ils ne sont pas annulés, sont vraiment, vraiment, vraiment compétitifs par rapport à ce qui se fait ailleurs sur la planète.
Fait qu'Yann fait juste un mandat, c'est ça qu'il est en train de nous dire.
Non, je ne me rends même pas, parce que toutes ces idées-là ne donnent aucun vote. Tu es tout le temps en train de donner des avantages fiscaux à tes amis riches, tu es en train de donner des avantages fiscaux à toi-même. Le narratif fait en sorte que si tu établis des choses comme ça, comme programme politique, tu n'y arrives pas. Moi, je pense qu'on doit être vraiment plus ouvert sur l'immigration au Québec. Ben, je viens de me bisbailler tous les nationalistes. Fait que là, tu es là. Comment je fais pour accéder au poste en ayant ce type d'idée-là? Ben, j'y arrive juste jamais. J'aboutis jamais dans la chaise parce que les idées sont pas assez populaires. Parce que si tu veux donner une baisse d'impôt présentement, tu sais, l'impôt au Québec, il est pas si violent que ça dans les premiers paliers d'imposition, surtout quand tu considères les chèques qu'on peut recevoir ou les crédits d'impôt familiaux. Pour un célibataire, c'est chien, là, mais pour quelqu'un qui a une famille avec 1-2 enfants, honnêtement, l'impôt est pas si pire que ça. Puis en plus, tu peux
En fait, quand tu tiens compte des enfants pour les premiers 60-70 000 $. Le Québec, je pense qu'il est même...
Très généreux.
Je pense qu'il est comme deuxième derrière l'Alberta, ce qui devrait te dire énormément.
Exactement. Fait que pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est parce que c'est un gros bassin de voteurs, puis c'est ces gens-là qu'il faut toujours te satisfaire. C'est l'affaire, c'est si je promets une baisse d'impôts demain matin, c'est pas vrai que je vais donner une baisse d'impôts à cette gang-là. Ils sont déjà en position qui est avantageuse. Je veux donner la baisse d'impôts aux plus riches, qui, eux, on les fait fuir depuis 15-20 ans, parce que le but, c'est d'en ramener ici. Mais comment je fais pour me faire élire avec une baisse d'impôts qui veut ramener des gens de l'extérieur vers nous, mais ces gens de l'extérieur-là vers nous ne votent pas pour nous parce qu'ils ne sont pas là. Fait que tu sais, tu es là, ouais. Tu te dis, accéder au poste en étant conforme aux idées que je voudrais réellement implanter, c'est à toute fin pratique impossible. Donc, à ce moment-là, je me mets dans une position que je dois corrompre mon esprit pour accéder au poste. Donc, pour me rendre là, je dois un peu réussir à y accéder, mais en dévoilant pas totalement mon plan.
Oui, mais
mettons que je fais l'avocat du diable deux secondes. Je pense que Yann a en partie raison, mais il y a aussi un autre phénomène là-dedans. C'est que si on prend, mettons, un parti comme la CAQ, ils se sont fait élire en faisant à croire à tout le monde qu'il était le parti le plus à droite. Souvenez-vous de toutes les déclarations de Legault au Québec, on paye trop d'impôts.
Ouais, mais je ne suis pas un gars de règlement. Si tu me demandes de faire ça, je ne suis pas capable de me regarder dans le miroir. Moi, ce qui est le fun présentement dans ma vie présentement, c'est que je crée de l'emploi. C'est que j'aide des gens avec leurs finances personnelles. Le livre qu'on a fait, on a réellement des gens qui nous font des témoignages comme de quoi qui ont changé leur vie financière. Je sais que j'ai un impact dans la communauté présentement. Je donne énormément de temps pour le baseball. Je sais, tu sais ce que Vincent disait, j'ai vraiment un impact pour de vrai présentement. Si j'arrive puis je corromps mon esprit pour accéder au poste puis éventuellement mettre mon plan machiavélique de libéralisation en place, c'est pas vrai que je suis capable de me regarder dans le miroir. J'ai accédé au poste
C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que t'as un parti comme la CAQ qui s'est fait élire en ayant un discours qui ressemble plus au tien que pas. Finalement, c'est en arrivant au pouvoir qu'ils ont fait l'inverse. Donc, c'est l'inverse de ce que tu dis. C'est un peu ça mon idée, c'est que finalement, ils nous ont dit qu'il allait avoir des projets de modernisation, puis ça allait être différent des autres. Finalement, après 2 ans, on se rend compte que c'est la même merde qu'on a depuis 50 ans.
Non,
ben, je dirais bien vite quelque chose. Il ne faut pas oublier que la politique, ça sort, ça attire des gens qui sont vraiment fascinés par le pouvoir. Mm-hmm. Mais même ceux qui y vont pour les bonnes raisons, ça sort le moins bon d'entre eux. Donc, il y a une vieille phrase de H.L. Mencken aux États-Unis qui est « It brings out the worst people and it brings out the worst in people ».
Exact.
C'est pour ça que, puis à la marge, je pense juste, même si, mettons, c'était pas ça, là, on enlève l'espèce d'hypothèse qu'il y a un biais de sélection, ce qui est, je pense, me tirer dans le pied massivement. Mais il y a quand même le fait que la valeur espérée que Yann puis moi, on ait un effet est très, 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 très basse. Mais c'est une valeur espérée pour un grand changement. Mais même moi, premièrement, je n'attribue pas une forte valeur à mes opinions, dans le sens que c'est tout à fait possible que ma politique ait des contre-effets que je ne désire pas, que je ne suis pas capable de prévoir, parce que c'est ça la nature. Tu sais, quand je dis que les politiciens ne peuvent pas planifier une économie, ben, ça marche aussi si tu essaies de déréglementer ou de désintervenir. Tu peux faire beaucoup de dommages dans un processus de privatisation ou de libéralisation, parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, quand on a libéralisé le taxi, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu avais des gens qui avaient acheté leur permis à une valeur gigantesque, puis c'était leur plan de retraite. Tu les as compensés, d'accord, mais tu ne les as pas compensés. Ils n'étaient pas malhonnêtes. Ce n'étaient pas des gens qui étaient... Quel méfait ils avaient fait à la société? Aucun. C'est juste le système dans lequel ils avaient produit les incitations dans lesquelles ils agissaient. Ils les ont poussés à faire ça. Mais après, en faisant la réforme, tu leur fais mal. Je veux dire, mes chances de faire une réforme sont limitées. Et ça ne veut pas dire que j'aime les résultats nécessairement de la réforme, même si je sais que dans l'agrégat, ils sont bénéfiques.
Ben.
Mais c'est difficile de faire ça. Donc,
on là, essaie de privatiser la SAQ demain matin, puis
les
probabilités de corruption que ça met en place sont énormes.
Oui, oui, mais imagine juste l'alternative. Qu'est-ce qui se serait passé si tous ces efforts-là, pour une faible valeur espérée, la probabilité que j'aille un changement, puis que fois la valeur du changement, relativement au changement que je fais en étant généreux avec les gens qui sont mes voisins, avec ma communauté, en participant à une vie de collectivité. mon effet, OK, l'effet est beaucoup plus petit, right? Mais la valeur espérée que je puisse faire du bien est largement, largement plus grande. Donc, au minimum, je suis sûr de ne pas faire mal à quelqu'un dans cette dimension-là. Et là, c'est beaucoup plus important. Et à la marge, je sais aussi, par exemple, si je crée quelque chose que les gens veulent acheter, j'ai clairement pas fait mal à quelqu'un en créant quelque chose de nouveau, en créant de la valeur ajoutée pour d'autres personnes. C'est pour ça que je dis, si on attribuait moins d'importance à la politique, on excuserait moins de choses, parce que c'est ça le problème des pundits. Puis d'ailleurs, tu sais, je veux dire, puisqu'on a notre cher Olivier Niquet qui nous écoute, on va le dire ouvertement, c'est la même chose, je le vois de la même manière, lui, que je vois Éric Duhaime. Les deux, leur plaisir, c'est de troller les gens qu'ils n'aiment pas. Mais c'est quoi la valeur de vivre une vie? Puis Jeff Fillion fait la même chose. Je sais que toi, t'aimes bien Jeff, mais Jeff aime troller les gens qu'il n'aime pas. Je n'attribue aucune valeur à ce trolling-là. Je comprends que ça fait partie de la nature humaine, mais imagine que tu es tellement dans le jeu politique, parce que ça revient à la première partie de mon commentaire, ça sort le pire dans certaines personnes. Mais quand tu es tellement dans ce monde-là, puis que tu es tellement dans le monde de la joute politique, puis que mon adversaire est fondamentalement une ordure à cause de ses opinions, ben, tu en viens à prendre un plaisir à troller ton adversaire. Ta valeur à la société dans ce cas-là, ta contribution marginale est quoi? Zéro. Tu n'as rien ajouté. Tu as blessé quelqu'un pour le plaisir de la blesser. Qu'est-ce que tu as vraiment contribué? Puis juste le dire, j'étais comme ça dans le passé parce que j'ai fait de la politique. Puis j'étais le plus mesquin dans ma vie quand j'étais en politique. Puis Yann l'a vu. Puis j'étais, honnêtement, je regarde qui j'étais il y a 10 ans.
Quand j'étais un bon troll.
Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'essence d'une vie qui vaut d'être examinée.
Ben écoute, je pense que... Je vais te donner un exemple. Si, mettons, on arrive, puis le but, OK, j'essaie de trouver une façon de me faire élire pour qu'éventuellement, on enlève le salaire minimum. OK, c'est ça l'objectif. Ben écoute, les chances que ça arrive, gros zéro, là. Essayer de convaincre la population que le salaire minimum est mal. L'affaire, c'est qu'un gars comme Vincent va être dans les médias ou va lire des papiers, va publier des papiers ou d'autres personnes vont vulgariser des travaux comme il fait. Ce qui manque cruellement au Québec, by the way. Là, je veux dire, des bons vulgarisateurs économiques au Québec, c'est le désert. Là, c'est
des bons vulgarisateurs tout court.
Oui, à la base. Mais vont probablement réussir un jour plus à faire changer les choses en ayant des bonnes explications de ce côté-là. Parce que, justement, je pense que j'adopte l'argument de Vincent que les politiciens font juste que les gens sont prêts à vivre. Sont prêts à faire comme changement. C'est pas des vecteurs de changement. À la limite, ils vont être 10 ans en retard sur le changement
qui a dû être fait. Juste une nuance. Je dis pas qu'ils sont jamais. Ce que je dis, c'est qu'ils sont...
Rarement.
Très, très, très rarement. Et quand c'est rare, c'est comme disait... C'est l'inverse de Shakespeare. C'est des exceptions qui confirment la règle. C'est pas des règles qu'on confirme dans les exceptions.
Mais la game, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a plus de possibilités, je pense, à faire changer les choses avec une bonne vulgarisation. Mais le problème du Québec, c'est qu'on n'a pas accès à rien. Je veux dire, notre uniformité idéologique au Québec est vraiment pathétique. Puis quand tu arrives et tu essaies de changer un peu les choses, peu importe la façon, que ce soit par le trolling, un peu comme Jeff va faire, ou que ce que nous...
Ça ne change rien, le trolling, je m'excuse, ça ne change rien. Ouais, ça fait juste polariser les gens. Je pense que ça fait juste... Parce que ça enlève la prémisse de générosité. Ça fait en sorte que tu érodes le réflexe de générosité intellectuelle. Je veux dire, quand on...
Je comprends ton point, mais ce que ça fait, c'est faut prendre conscience que les humains sont humains. Je veux dire, on n'aura jamais 50 000 auditeurs, le trio économique.
Non, effectivement.
Ça n'arrivera pas. Par contre, quand tu vas, toi, par exemple, ou moi, faire une entrevue avec Jeff, on va avoir 50 000 personnes qui vont écouter.
Oui. Il faut bien expliquer, mais il faut être généreux avec la personne.
Mais pourquoi qu'il y a 50 000?
Je ne suis pas d'accord avec ça.
Pourquoi qu'il y a 50 000? C'est parce que le show est bon. Puis pourquoi que le show est bon? Parce que Chris, le monde aime le trolling. C'est plate, là.
Non, je comprends.
Ouais, mais il n'y a pas juste ça aussi là-dedans. Il y a aussi le fait que C'est comme si, mettons, Vincent, tu me disais, moi, je fais de la boxe et je suis by the book, je suis tous les règlements, puis je veux me battre de manière honorable. Mais là, tu arrives dans le ring, puis tu es prêt avec quelqu'un qui te mord une oreille, il te donne des coups de poing dans les couilles. Ben là, il y a
Mike
ça aussi.
Tyson.
Ben, c'est ça, mais c'est ça. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. C'est que là, à un moment donné, si tu veux remporter, entre guillemets, le combat ou pas trop te faire humilier, il va falloir que tu joues un peu les règles de l'autre. C'est pour ça que moi, je tiens pas particulièrement à faire du trolling ou à faire des associations douteuses ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que si tu t'essaies de discuter avec quelqu'un, que comme tu n'es pas d'accord avec lui, automatiquement, il va dire que tu es un nazi ou je sais pas quoi, ben moi, à partir de ce moment-là, moi aussi, je vais te fesser d'un couille.
Okay.
Je commencerai pas à me tenir une position de principe chevaleresque juste
non,
pour
dire non, moi, je...
C'est pas ce que je veux dire.
Je comprends que c'est facile pour moi de dire ça parce que dans le... Comme disait la chanson de Asia, The Heat of the Moment. Tu vois, un pun des années 80. C'est, hey, j'ai réussi à faire une joke de musique des années 80. Mais dans le
Super
Heat
group.
Of the Moment. Oh, c'est pour essayer. I'm a radical. Tu vois, encore une fois, là, c'est une chanson.
Ouais.
Pour ceux qui. En tout cas, laisse faire les jokes poches des chansons des années 80. Mais dans le Heat of the Moment, je peux effectivement être peu généreux parce que. C'est difficile, tu sais, de réfléchir, tu sais, sur le vif. Mais ceci dit, il y a quand même... Pense à des gens qu'on juge héroïques dans l'histoire. Mon exemple préféré, c'est Janusz Korczak, qui était un pédiatre polonais qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, opérait un orphelinat juif dans le ghetto de Varsovie. Et pendant les années du ghetto, il a refusé de quitter les enfants, parce qu'il était considéré comme un héros. Même les nazis avaient un camp de concentration pour les juifs honorables pour faire façade à la Croix-Rouge, pour pas, tu sais, que ça soit vu qu'est-ce qu'il faisait exactement. Tout le monde avait compris que c'était de la bouche. Non, mais ça s'appelait Theresienstadt, qu'il y avait des juifs de prominence sociale très élevée qui étaient envoyés là. Et lui était justement, par cause de sa prominence internationale, a été offert par certains nazis d'être envoyés là, mais aussi par la résistance polonaise d'être évacué parce que c'était un héros à la Pologne. Mais il a refusé de quitter les enfants et le jour qu'ils ont évacué, ça m'apporte chaque fois que je pense à ça, ça m'apporte des larmes aux yeux. Il a refusé de les quitter la journée qu'ils abandonnaient l'orphelinat et il leur a menti tout le long en disant « Habillez-vous le plus beau, amenez vos jouets, votre jouet ou votre livre préféré. » Et tout le long de la marche vers le train, il prétend que tout va bien aller. Et tu vois l'humanité dans ce personnage-là. Et là, tu vois, ça m'attire vraiment des larmes, cette histoire-là. C'était le prince, le gars était tellement attaché à un principe fondamental que peu importe le coût qu'il était à veille de payer, il était prêt, il allait le faire. Parce que c'était plus important que lui. Et là, ici, il y a le point que l'exercice de la vertu morale, ce gars-là, là, constamment, on lui a offert des chances d'exercer son réflexe de quitter. Et il a refusé. Il a adhéré au principe à plusieurs reprises. Et il s'est recommis et recommis. Et comme disait Aristote, la vertu est un art qu'on pratique. La générosité intellectuelle, c'est un art qu'on doit pratiquer pour le maîtriser. Dans les actes héroïques de gens comme ça, des gens qui se commettent à jouer selon des principes plus grands, c'est eux qu'on finit toujours par admirer avec la rétrospective de l'histoire. Leurs fins sont généralement tristes et atroces, mais c'est qui qu'on juge comme des héros? Ceux qui ont refusé de sacrifier un principe qui était soit non-violent, qui était respectueux, que non seulement ça, mais ils étaient prêts. Tu vois leur détermination là-dedans. Bien, l'idée, c'est qu'imagine juste si tu as une petite fraction de plus de gens comme ça qui nous donnent inspiration ou qui participent aux conversations comme ça. Puis c'est là le point que je fais vraiment.
À la marge.
Je ne veux pas faire à la marge.
Je comprends ton affaire.
La force d'une civilisation dépend des marges sur lesquelles on se contraint. Est-ce que c'est des marges dans lesquelles on encourage la coopération, la coexistence, la compréhension de l'autre, ou est-ce que ce sont des marges, même si on voit que ça peut être bordélique et imparfait, ou c'est des marges dans lesquelles on valorise l'exercice de la violence, de l'imposition à l'autre. ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun rôle pour l'État et qu'il n'y a aucun rôle à la politique, mais la question, c'est quel poids tu attribues à chacun et dans lequel tu es le plus susceptible d'éviter des situations atroces parce que les gens ont une fibre morale tellement forte ou au minimum une sorte de série de contraintes qu'eux-mêmes se sont créées parce qu'on oublie une partie d'Adam Smith. Adam Smith disait que ce qu'on veut, c'est pas juste « We don't only seek to be loved, we seek to be lovely. » Et dans la phrase de Smith ici, c'est l'idée que pour notre bien-être, on doit rendre service aux autres pour notre bien-être, mais on veut aussi être bien vu dans les yeux de l'autre pour satisfaire notre bien-être. On se contraint par l'échange.
La majorité de la charité est d'abord faite, d'abord et avant tout, pour soi-même. Les gens ont de la misère. La charité est un acte très individualiste. Oui. Ça, c'est pour la plupart des gens, tu dis ça, tu dis, mais on est même bizarre ce gars-là de dire des affaires de même. Ça n'a donc même pas rapport. Il est charitable parce qu'il est individualiste. Non, il est charitable parce que tu vas chercher beaucoup de bonheur à faire l'acte de charité. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que tu veux être reconnu, par exemple, sur un stage pour avoir un petit prix comme étant bénévole de l'année. Là. C'est pas ça pantoute qu'on est en train de dire.
Non, des c'est fois, de sentir que tu as un effet dans la vie
positif.
Des gens. C'est juste de dire, en fait, je refuse l'idée d'égoïsme et d'altruisme. Parce que c'est comme si les deux sont des expressions différentes de l'un et l'autre. Mm-hmm. Pour être égoïste, je dois concevoir l'émotion de l'autre. Pour satisfaire mon intérêt, je dois imaginer ce que l'autre a besoin. Right? Mais dans cet exercice-là, je dois faire preuve d'empathie. Je dois être capable de me détacher de moi-même à un certain degré et de revenir vers moi-même. L'exercice de la vie en société, c'est la gouvernance de cette transition vers entre il faut qu'on se. On ne peut pas être parfaitement selfless, on ne peut pas être parfaitement centré sur soi-même, parce que dans les deux cas, il n'y a aucune chance de coopération, il n'y a aucune chance de survie. Notre survie dépend de la coopération avec l'autre et donc de négocier cet espace constamment entre se servir soi-même en servant les autres, mais sans non plus nécessairement se détruire dans cet exercice-là de service à la communauté qu'on rend. Cet exercice d'arbitrage est imminemment difficile, mais plus tu le pratiques, plus il devient facile. Pas dire qu'il devient nécessairement, mais il devient moins difficile.
Mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu refuses de débattre ou d'échanger avec des gens qui partagent pas ce précepte-là? Parce que moi, je suis d'accord avec toi dans l'absolu.
Je t'ai dit, rappelle-toi quand on parlait des gens que je refusais de débattre. Je suis prêt à débattre n'importe qui n'est pas violent. Donc, si tu utilises des propos violents, je vais refuser. Et seulement si c'est vraiment absolument nécessaire que je débatte avec toi, parce que disons, tu tiens des propos qui sont tellement atroces, disons, genre, tu étais un nazi, on va dire dans l'extrême là, pour les gens, que là, il y a un avantage à te débattre, mais à gagner, à triompher. Mais dans ce cas-là, ça nécessite énormément d'efforts. Mais tu sais, mettons un débat sur les frais de scolarité. Si je parle avec quelqu'un qui fondamentalement dit c'est correct de brûler des postes de police, écoute.
J'ai pas de temps à perdre avec ça. Là.
J'ai pas de temps. Je ne veux pas te prêter le peu de crédibilité que j'ai. Parce que tu sais, je suis juste un petit prof d'université et that's it. Mais je veux pas te prêter ce que j'ai alors que toi, tu es vraiment une personne qui condamne de blesser. Mm. Parce que tu sais, ça arrive, c'est un peu. Puis là, il y a une thèse en philo, c'est le innocent offender. Mm. C'est imagine un jury de gens qui te condamnent d'un crime que tu n'as pas commis, mais qu'ils avaient des raisons probables de croire que tu avais commis ce crime-là. Et en fait, ça aurait été déraisonnable pour eux de te juger innocent, étant donné les preuves qu'ils avaient. C'est juste que tu ne l'as pas fait. Mais as-tu raison, dans un cas comme ça, tu as comme une justification pour comme essayer de t'enfuir de prison ou quelque chose comme ça. Mais aurais-tu justification de tuer genre le policier pour t'enfuir de la prison? Non. Non, la thèse de l'innocent perpetrator, c'est que dans un cas comme ça, tu as une sorte de proportionnalité. Tu pourrais, par exemple, frapper le garde pour t'enfuir, puis ça fait juste le blesser pour une journée, mais tu ne pourrais pas en tuer deux pour pouvoir t'enfuir parce que tu n'as pas commis un crime. L'idée ici, dans un cas comme ça, c'est que tu vois qu'il y a comme un contexte à la chose, mais le gars qui dit que c'est correct de brûler un poste de police parce qu'il défend ils défendent le gouvernement qui veut déréglementer les frais de scolarité. Non, il y a zéro proportionnalité. Tu mets la vie de quelqu'un d'autre en danger pour quelque chose qui est absolument trivial. Mais toi, je ne te donnerai pas de crédibilité dans ce cas-là parce que tu violes un principe moral que plusieurs personnes accepteraient, mais que toi, tu es tellement idéologiquement mindé que tu es prêt à faire ça. Au même titre, d'ailleurs, tu sais, je mets Maxime Bernier dans la même catégorie. Maxime Bernier, qui est un clown constant, qui fait tout pour écœurer les policiers avec ses affaires. Fait que, honnêtement, j'ai vu la petite vidéo, par exemple, de ce qu'il a fait. C'était carrément s'il ne provoquait pas le policier de le mettre dans le char. Tu sais, tu peux juste aussi comme dire, OK, garde,
mais okay, j'arrête. Mais pourquoi? OK, mais si la je question, c'est... sur une chose, Vincent, ouais. Par contre. Fair enough, ce que tu viens de dire. Si on prend isolément le cas de Maxime Bernier, je ne peux pas être en désaccord avec ce que tu viens de dire. Mm-hmm. Le fuck, au Québec, c'est que ces clowneries-là arrivent de l'autre côté aussi.
Oui, c'est pas...
Pourquoi Amir Kadir est encore un être respectable puis Maxime Bernier ne l'est plus?
Ouais. Mais je pense pas qu'aucun d'entre eux est respectable.
Toi, oui. Mais 99% des autres personnes ne pensent pas la même chose.
Ben, parce qu'il y a aussi une manière... Parce que pense juste à comment c'est facile d'être... Je peux comprendre. Moi, je n'ai pas de difficulté à le comprendre. Il y a les normes sociales qu'on s'établit, c'est des normes de gouvernance de nos comportements. On établit ce qui est correct et pas correct de faire.
Ouais, mais je veux dire,
L'idée, c'est parce que c'est trop coûteux de savoir si la personne est vraiment correcte. Right? C'est pas que ses opinions sont bonnes ou pas bonnes, c'est qu'il y a des normes sociales dans comment le faire.
Ouais, mais
si tu les transgresses...
Est-ce que Maxime Bernier est discrédité? Il est discrédité par les journalistes, par les chroniqueurs, par les caricaturistes.
Je pense que la seule raison que Maxime Bernier est si marginal, c'est parce que pour attirer de l'attention, il a eu besoin de transgresser les normes qu'on a établies.
Fair enough. Mais pourquoi les autres, de l'autre côté, tu transgresses les normes sans jamais aucune fucking conséquence? Parce qu'à un moment donné... À quelque part, là, les gens qui sont tout le temps sur
tu
le dos...
Tu dis ça, mais il y en a plein des gens de gauche qui ont payé des... C'est ce que là, c'est parce que moi, je pense qu'ici, je vais te critiquer. Là, je pense que tu vois ton biais de gars de droite ou est-ce que tu vois plus facilement la persécution contre ta gang que contre l'autre gang. Mais Amir Kadir, par exemple, quand il a fait les affaires de maladie de Lyme, où est-ce que toutes les discussions sur les critiques du collège des médecins qu'il y a eu à son égard, tout ça est sorti, sa crédibilité a pris un coup parce qu'on a vu qu'il agissait comme un gars en croisade tellement idéologique contre des groupes médicaux organisés qu'il était en violation de trucs scientifiques assez
il
de
base. Il est encore à la TV, pareil, là, Vincent. Moi, je pense qu'il y a,
oui, mais il est pris avec là-dessus. Un poids différent.
Ouais, ouais, mettons que Maxime Bernier là, qui est allé faire du boycott en avant d'un magasin israélien de vendage de souliers. Là. Est-ce que ça y collera encore aujourd'hui comme la personne qui a eu un comportement antisémite? Hey, QS ont déjà présenté ont voulu présenter dans Jean Talon un gars qui est ouvertement un ancien nazi.
Ouais, mais ils l'ont-tu exclu?
Non, mais il savait qu'il était nazi. Là. Le gars, il dit « Ah, mais j'étais comme ça avant. » Là, je me suis repensé. Penses-tu sérieusement que, mettons, un autre parti pourrait faire ce genre de truc-là? C'est évident. Je pense que le point de garde, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures. Ça me semble quand même assez évident. Là.
Écoute, je vais être... Premièrement... bon, là, il y a deux choses. Si c'était... Là, je vais être vraiment le plus généreux possible. Le gars, si c'était un ancien nazi, tu viens de le dire dans le mot, c'est un ancien. Right? C'est pas... S'il était currently active, je serais... OK, d'accord, là, je veux dire, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vraiment donné un candidat poteau à ce point-là, là? Vos principes valent si peu. Mais si c'est un ancien qui s'est reconverti, il y en a des gars qui ont quitté des mouvements skinhead puis qui sont devenus des fervents défenseurs des fervents pourfendeurs de ces gens-là. Donc là, tu sais, tu me dis ça. J'aimerais ça savoir plus sur le gars en question, d'une part. Mais tu sais, je peux aussi penser à tous des exemples de gens de gauche tellement extrêmes qui se sont ridiculisés. La fille d'Extinction Rébellion, là, quand elle est allée faire ses affaires après avoir bloqué le pont, elle s'est faite complètement ridiculiser, puis il n'y a personne qui l'a pris au sérieux. Puis il y a même des gens de gauche qui disaient « T'es en train de nuire à la cause ». Il y en a des pénalités, je pense que...
Mais les pénalités, une des raisons pourquoi il n'y en a pas au Québec, beaucoup, par rapport à... Mettons aux États-Unis, là...
Ça coupe pour tout le monde, gauche et droite.
Oui, non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que le volet droite au Québec est extrêmement faible. Puis tu sais, je veux dire, dans ce que tu disais, par exemple, qu'Éric Duhem, par exemple, va faire du trolling, Jeff va le faire aussi, je te donne 100% raison. C'est vrai. Seule affaire, c'est qu'aux États-Unis, les forces du pouvoir, si on veut, sont quand même assez équilibrées dans les médias parce qu'il y a une population qui permet ça. Il y a une plus grande population. Au Québec, tu as un côté très, très, très marginal et un côté omniprésent. Je veux dire, c'est la réalité du Québec présentement. Fait que, tu sais, moi, personnellement, j'ai de la misère à aller attaquer ces gars-là de faire ça. Parce qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, sont-ils seuls de ce côté-là de la clôture? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est... Puis du trolling, nous autres, on en subit à côté. Là. Je veux dire, c'est l'enfer, le trolling qu'on subit. Puis...
Oui, mais je vais donner un contre-exemple qui défend bien ma cause. Mathieu Bock-Côté, il y a des opinions qui sont très minoritaires au Québec,
oui.
Mais il n'y a personne qui le juge peu respectueux. Les gauchistes laïcs. Mais en même temps, tu sais, Mathieu Bock-Côté, quand tu prends le temps de le lire, c'est quand même pas...
C'est structuré,
c'est organisé.
Mais moi, je pense que s'il n'est pas souverainiste, général... c'est barré.
Peut-être c'est ça. Mais en même temps, c'est quand même un gars qui est relativement assez souvent, des fois, tu sais, comme n'importe qui, il peut faire l'erreur puis ça lui enlève absolument rien, mais qui est généreux avec ses critiques, qui est généreux avec les gens. Je veux dire, on le voit juste dans son dernier livre, La révolution racialiste. Il a vraiment pris le temps d'essayer d'engager respectueusement. Pas respectueusement, ça ne veut pas dire avec un gant de velours. Ça peut être absolument fait. Tu peux être poli, courtois, respectueux, tout en étant complètement destructeur dans les propos de la personne que tu détruis. Mais il n'y a pas de personnages qui sont critiqués. Il ne dit pas Ibrahim Yekskendi, c'est une ordure. Il n'insulte pas des gens. Il dit ses idées sont atroces. Il y a vraiment cette espèce de générosité-là. Et qu'est-ce qui se passe? Mathieu Bock-Côté ne paye pas de pénalité pour ça. Youri Chassin a dit des choses qui, je veux dire, je ris de Youri parce que c'est mon collègue, là, c'était mon ami à l'IADM, puis je le taquine souvent sur le fait qu'il est allé à la CAQ pour la chance de pouvoir baisser, de faire en sorte que le déficit va être éliminé en 2029 au lieu de 2029.5. Et grâce à lui, on s'est sauvé 6 mois de déficit. J'apprécie tellement tes efforts, Youri. Mais je l'aime beaucoup, Youri. Mais tu sais, Youri est quand même considéré comme un gars de droite respectable parce que Youri n'a jamais fait dans le ad hominem, n'a jamais fait dans l'attaque personnelle, a respecté certaines normes de comportement social. L'idée ici, je pense que c'est à quel point tu transgresses des normes. Puis c'est là que tu en viens à te faire ridiculiser. Et je pense que ça marche gauche comme droite.
Oui. Là-dessus, Vincent va dire la même affaire. C'est l'affaire, c'est que j'ai de la difficulté à critiquer des gens qui le font parce que de toute façon, ça devrait exister plus. Dans le sens que une société où est-ce que le débat est équilibré, ça vient avec toutes sortes de personnes. Ça vient, oui, avec des gens très généreux, mais ça vient aussi avec des gens qui sont peu généreux de ce côté-là.
Effectivement.
Mais cet équilibre-là au Québec n'existe pas. Il est très débalancé. Puis des gens comme moi qui vont avoir une tendance, moi je te dirais, je tente les deux. Moi honnêtement, le troller, c'est pas mon gros fun dans la vie, mais faire une bonne joke, je suis tout le temps prêt. T'sais. Mais je suis pas super bon, je suis pas super efficace là-dedans. Tout ça. Je me vois plus comme un vulgarisateur quand même, puis essayer d'être groundé le plus possible du monde. Mais je veux dire, c'est quoi mes tribunes si Jeff n'existe pas? J'en ai pas.
Non, je comprends ton point, puis c'est pas que il n'y a pas d'exercice à faire, mais l'idée, c'est peut-être, dans ce que je dis, c'est dans la manière dont tu le fais, dans l'exercice au quotidien, au minimum, tu réduis le coût pour la prochaine personne qui veut agir comme toi, d'agir de cette manière-là. Tandis que si tu agis comme un troll, ben, t'encourages. Tu sais, en fait, je me pose la question. On compare Jeff Fillion versus La soirée est encore jeune. La soirée est encore jeune est arrivée bien après Jeff Fillion. Mais quel pourcentage de l'émergence de La soirée est encore jeune on pourrait expliquer au fait que Jeff Fillion a commencé à être un des trolls? Puis qu'avant, tu sais, la question, c'est pas
juste. Un besoin de l'autre.
Ben, c'est ça. L'idée, c'est que. Mais si, mettons, il y en a un des deux qui arrête. Mettons, on fait un scénario contrefactuel. Il y en a un des deux qui décide d'arrêter.
Il y en a un autre qui pousse. Je pense qu'il y en a un autre qui pousse.
Peut-être un autre qui pousse, mais mettons qu'on va faire un exemple encore plus extrême. Il n'y a plus d'autres personnes qui peuvent exister dans le marché des médias.
OK, puis on fait de l'économie comme Québec solidaire.
On va faire quelque chose d'extrême.
on retire quelque chose et ça ne s'ajuste pas.
OK. Je vais passer par-dessus ton commentaire. Dans ce cas-là, mettons que Jeff Fillion arrêtait. Ben, au minimum, tu aurais moins de production de clips prenant de Jeff Fillion pour troller son opinion.
Oui.
Fait que là, tu aurais déjà une réduction qui vient
ben,
regarde, de Jeff, mais aussi
l'exemple
de
au
l'autre
sud, Vincent,
qui ajuste son comportement.
T'as l'exemple au sud, CNN, les codes d'écoute font ça depuis que Trump n'est plus là. Je veux dire, les codes d'écoute s'en vont dans la toilette.
Oui, mais je pense que c'est là que ça, peut-être Trump, ça aurait été un meilleur exemple encore. Pourquoi les gens ont trouvé Trump si pénible que ça? Parce que quand tu regardes les politiques publiques qu'il a adoptées, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, c'était la médiane de ce que les républicains ou les
ben,
démocrates...
Moi, je trouve son bilan est très bon. Sérieusement, il n'a pas fait grand-chose. Tranquille.
OK, enlève le personnage. Si tu avais juste une liste, un laundry list de politiques publiques...
Très bon.
Non, moi, je pense que c'est zéro en termes d'effet. Pas d'effet négatif, pas d'effet positif.
Ben, c'est ce qu'on veut.
Le déficit qu'il a fait pré-pandémie était atroce. Oui, je suis d'accord, c'est ça qu'on veut.
non, non, mais moi, c'est
pour
dans ma perspective.
Pour toi, zéro effet négatif, c'est comme un A+. Je suis d'accord.
Exactement.
Tes attentes, ça, c'est parce que tes attentes sont très, très basses. mais l'idée de dire qu'au net, les dommages n'étaient pas si troll que ça, sur les politiques publiques, c'était OK, fine. Mais le fait que les gens pensaient qu'il était si atroce que ça,
ça n'a pas rapport.
Mais ça, c'est parce que lui était un personnage absolument déplaisant qui constamment transgressait des normes de comportement.
Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est le cas de tous les candidats républicains depuis toujours. Ils nous ont fait le même coup avec Mitt Romney aussi. Ça devait être un malade mental là, qui était...
Mais,
c'est toujours
mais,
ça. Là,
y a... Je suis d'accord. Ça fait partie de la stratégie politique, mais personne ne pouvait dire que Mitt Romney ne se comportait pas en plus. Les démocrates l'attaquaient sur ses opinions. Ils essayaient de dire qu'il allait ramener les gens, en fait, qu'il voulait ramener la ségrégation, parce que Joe Biden avait accusé Paul Ryan, qui était son collègue, puis Romney, d'être. Ben, il veut ramener la ségrégation aux États-Unis, c'est ça qu'il veut faire. C'est comme, dude, c'est pas ça qu'il. Il y a zéro chance qu'il dise ça. Oui, mais ouais. Tu fais du ad hominem, c'est la nature du jeu politique.
Et comment t'expliques ça, par exemple?
Mais la raison que Trump était si haï que ça, c'était que lui, il transgressait sciemment et consciemment et de manière réitérée des normes de comportement. Et quand tu compares, Joe Biden a des positions beaucoup plus extrêmes en termes de ce qui est adopté présentement que chez les démocrates moyens, les administrations démocrates du siècle. Mais en même temps, Joe Biden, c'est pas quelqu'un qui transgresse des normes lorsqu'il parle.
Mais
il n'est pas impoli
pour la télé. Là. Le problème présentement, c'est que...
Il n'est pas impoli, il n'insulte pas. Ben, dans ce cas-là, il ne va pas perdre.
En même temps, des déclarations bizarres de Joe Biden, je peux t'en sortir 50.
Ouais.
Si tu votes pas pour
mais
moi,
des déclarations
pas
bizarres,
noir,
mais des déclarations bizarres, ce n'est pas des transgressions de normes.
Mais la raison pour laquelle j'ai sorti l'exemple, Vincent, c'est que tu disais comment que les deux côtés du trolling avaient besoin un et l'autre. Je pense qu'on en a la preuve. Je veux dire, CNN, c'est des bons trolls.
Ah, oui.
Trump, c'était un bon troll. Les deux se complétaient à merveille. Les deux, grâce à ça, CNN a eu des codes d'écoute phénoménales.
Oh oui. C'est Jim Acosta qui est probablement le troll le plus troll de l'histoire de l'humanité. Il y a une phrase que j'ai entendue quelque part que j'aime beaucoup. Mesdemoiselle, trouvez-vous quelqu'un qui vous aime autant que Jim Acosta aime Jim Acosta? c'est la phrase qui, pour moi, reste pour toujours. Ce gars-là était...
Mais ramène l'économie un peu là-dedans. Un média comme CNN, qui là, l'ont d'en face, là. Ils ont besoin d'un antagoniste puissant pour exister. Ça augure rien de bon non plus pour le futur. T'sais, pour un gars comme toi qui prône une certaine générosité intellectuelle, je veux dire, économiquement parlant, on veut marginaliser des gars comme toi.
Je comprends. Mm. Mais en même temps, c'est pas en jouant le jeu de l'autre que tu en viens à améliorer les choses. Je pense que c'est toujours mieux de stick by your gun, reste respectueux de l'adversaire. Je sais que c'est pas facile.
Mais... Ah, mais ta conclusion est bonne. C'est pas en politique qu'on règle des affaires.
C'est ça le problème. C'est que si tu restes gentil et tu fais jamais rien, ben, ça donne Adrien Pouliot puis 1%.
Oui, mais c'est parce que Adrien est en politique. Moi, ce que je dis, c'est que tu as plus d'effet en faisant pas de politique.
Ouais.
En contribuant dans d'autres marges de la vie communautaire.
Il faut quand même qu'il y ait des gens qui le fassent. C'est ça le problème.
Oui, mais il faut amener les politiciens à penser comme nous. Dans le fond,
non,
faut que tu prépares le terrain pour que la population soit prête à faire le changement que tu souhaites. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que cette population-là soit préparée, il faut qu'elle soit éduquée d'une certaine façon, côté économie ou peu importe. Mais s'il n'y a personne pour parler, t'en auras pas.
Check bien. Bitcoin, quand on parle de règles du jeu, quand Bitcoin arrive, Bitcoin met plus de... Le gars qui a inventé Bitcoin, là, on ne sait pas c'est qui exactement, là, ce gars-là a eu plus d'effet que n'importe quel politicien parce qu'il a créé une alternative qui contraint les politiciens, qui réduit leur environnement de choix. Demain matin, là, Frank t'invente une nouvelle technologie qui fait en sorte qu'on n'ait plus besoin du CRTC. Donc, que tu n'as plus de mécanisme politique qui peut contribuer à comment on alloue le spectre pour le spectre FM. En fait, tu peux aussi l'attribuer pour le AM, by the way. C'est
quasiment mort, là.
Ben, c'est ça, j'allais dire. Mais que tu n'as plus de mécanisme politique là-dedans. Tu inventes un substitut technologique. Ce que tu as fait, c'est que tu as contraint l'État à s'exclure d'un domaine d'activité sociale. Si tu inventes une application qui remplace, disons, le gouvernement doit intervenir pour régler des asymétries d'informations, tu produis un truc qui règle ce problème-là. On n'a plus besoin de l'État dans cette marge-là.
Ça reste normal pour nos auditeurs.
Ça a plus d'effet.
Ça reste normal pour nos auditeurs de poser ce type de questions-là parce que pour eux, le changement, ils aimeraient ça qu'ils viennent à court terme. Puis le problème qu'on a, c'est que les changements du type qu'on parle souvent en nous, c'est des changements qui vont prendre des décennies. Tu sais, je veux dire, changer une mentalité, amener une population à être prête à libéraliser un marché, des choses comme ça. On le sait, tu sais, c'est Foggy à un moment donné qui a dit à l'intérieur de chaque homme, il y a un petit curé, puis...
il y a un policier, puis un curé.
Un policier, puis un curé. Je veux dire, cette phrase-là m'avait marqué quand je l'avais lue, puis honnêtement... on s'en rend compte. On est un peu comme ça. Fait que, tu sais, d'arriver puis de dire on veut une économie plus libérale où est-ce que les gens se font confiance mutuellement pour faire des échanges entre eux, ça va contre le policier puis le curé. Là.
Ouais.
Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'éducatifs à faire pour amener les gens à penser un peu plus comme ça. Puis je sais pas si on va dans la bonne direction, honnêtement. J'ai des gros doutes. Ouais. J'ai vraiment des gros doutes. Puis le politique est vu comme... la solution facile pour amener des changements radicaux rapidement, surtout avec le système uninominal à un taux qu'on a. Fait que c'est normal, je pense, pour les gens de demander à ce qu'un sauveur arrive et fasse tous ces changements-là pour eux rapidement.
Oui, mais le syndrome du sauveur, c'est ça ne marche jamais. Puis ça fait que souvent, quand
on voit ce que ça donne avec le PQ.
Ben non seulement...
Excusez, je cherchais une fin agréable pour le pour
non,
la podcast,
mais celle-là,
je pense que
celle-là,
je viens de la trouver.
Celle-là est sauvage.
Ben, on va se laisser parce que Vincent, tu dois y aller, puis ça fait quand même pas loin de 2 heures là, qu'on a commencé. Il y a quelques questions qu'on a pas touchées, d'autres qu'on a touchées.
On pourrait commencer le prochain, puis dire parler de ça.
Mais sinon, moi, je propose que si les gens ont aimé, qu'ils laissent des commentaires pour le signaler, puis si c'est une formule que les gens aiment, on peut dire qu'à tous les, je sais pas, 10 podcasts, on fait une formule comme ça, ou c'est pas nous autres qui imposent le sujet.
Ou on peut l'ajuster un peu si les gens font des commentaires sur qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé.
Laisser des commentaires sur YouTube, sur Patreon, un peu partout. Puis si nous autres, on s'ajuste en fonction de ce que les gens veulent. Fait que c'était une bonne première, je pense, pour cette formule-là.
C'était le fun.
À la semaine prochaine.
Cheers.
Salut.